Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger.
Bonjour Patrick.
Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous en ce mardi 22 novembre. Bah oui, c'est vrai. Benjamin, vous allez faire une journée à rallonge. Je préviens en fait les auditeurs. Ceux qui veulent le Benjamin du petit matin, bah ils l'ont sans problème jusqu'à 9h tout à l'heure. Et ceux qui souhaitent aussi, qui réclament à corps et à cri dans la rue avec des manifestations le Benjamin du soir, ils l'auront également puisque, eh bien évidemment avec Rémi Dos Santos, Philippe David, ce soir, vous serez autour de ce match France-Australie de la Coupe du Monde du Qatar pour commenter, pour analyser bien sûr ce match, c'est le début des Bleus. Bon, vous allez réviser un petit peu toutes vos petites fiches, mon cher Benjamin, comme ça les auditeurs.
Faut laisser reposer un peu la voix, quoi, en espérant qu'on va s'enflammer
voilà,
un petit peu.
C'est ça. Oui. Bah oui, il faut que ça s'enflamme. En règle générale, les premiers matchs c'est plutôt assez timide quand même à la Coupe du Monde.
Surtout avec
ça veut dire moins d'envolée, etc.
Fortement.
Vous avez regardé un petit peu hier, Benjamin?
Ouais, j'ai regardé effectivement. Ah bah le festival des Anglais, bon face à l'Iran, c'était un peu attendu, mais non, on a eu déjà un premier beau match là. Dans l'après-midi entre déjà entre les Pays-Bas et le Sénégal, ça a été un beau match. Le premier, on va dire serré de cette compétition.
Bon, très bien. Donc nous parlerons aussi de cette ambiance autour de la Coupe du Monde. Ambiance quand même un peu étrange. On n'a pas l'impression d'être pour l'instant dans une Coupe du Monde. Non seulement quand on regarde en fait à la télé, et puis même on ne le vit pas de la même manière. En tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'interrogations autour de cette équipe de France qui part un peu dans l'inconnu avec beaucoup de blessés. Moi, ça me rappelle pour les plus anciens, évidemment d'entre nous, ça me rappelle étrange. 2002 avec l'équipe de France qui avait gagné la Coupe du Monde en 98, qui a eu des blessés en 2002. On disait oui, mais ils ont quand même des attaquants exceptionnels. Et résultat, un petit tour et puis retour à la maison. Bon, j'espère que ce ne sera pas le chat noir pour cette fois. Mais en tout cas, c'est vrai que ces blessures, ces petits problèmes, ces petits pépins posent un certain nombre d'interrogations. Tout ça sera levé ce soir. Il y en a qui sont passionnés de foot, mais qui ne vont pas quand même regarder. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Certains qui seront avec nous tout à l'heure à 7h15, qui organisent parallèlement un mondial du baby-foot. Oui, voilà, c'est
génial,
ça. Et c'est une façon de protester. C'est dans du côté des Pyrénées. C'est un collectif d'anciens gilets jaunes qui seront avec nous tout à l'heure à 7h15. Allez, c'est parti pour le grand matin.
Et à tout à l'heure, Patrick Roger. On vous retrouve à 7h d'ici là. Sud Radio à votre service avec Cécile Minibus.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.
Bonjour Cécile.
Bonjour, tout de suite Sud Radio à votre service avec Katia Sanchez qui est avec nous, fondatrice de l'entreprise qui porte votre nom. Chère Katia, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci à vous.
Vous fabriquez des pulls en matière 100% naturelle. Vous êtes pour le coup une vraie entrepreneuse. C'est un gros défi aujourd'hui.
Oui, c'est un gros défi, effectivement. Ça demande pas mal de réflexion et de recherche, mais c'est possible.
Oui, c'est tout à fait possible. Alors, on parle de matière chez vous, on parle de pulls. Aujourd'hui, à l'heure de l'épuisement des ressources, de la surconsommation des vêtements, est-ce que c'est un sujet dont il faut parler forcément? Je sais que vous portez ces sujets.
Oui, tout à fait. En fait, moi, je fais peu de choses, mais je les fais de manière le plus clean possible, c'est-à-dire que j'utilise un fil unique dans ce que je crée dans mes pulls, qui est un fil en 70% Superkid Mohair certifié RMF, mélangé avec de la soie et pas du polyamide afin que ce soit 100% naturel, donc matière renouvelable et qui ne fait pas appel à la pétrochimie ou à des matières synthétiques issues de la pétrochimie. Donc du coup, la matière pour moi c'est très important.
Et elle correspond à vos valeurs d'ailleurs. Vous fabriquez en Italie dans une petite entreprise familiale. Enfin, je dis petite, c'est devenu une grande.
Oui, une petite entreprise. Il y a une trentaine de personnes, dont des personnes qui sont là depuis pas mal d'années, des dizaines d'années. C'est à la base une famille. Marcia qui a à peu près une cinquantaine d'années est la fille du couple qui a créé cette usine dans les années 60 et qui a démarré de rien avec deux machines dans leur salle à manger et qui aujourd'hui a une petite fabrique de 30 personnes et qui fait de la maille, beaucoup de mohair et qui a un grand savoir-faire en maille effectivement.
Tout ce qu'on aime, savoir d'où est fabriqué, savoir d'où vient forcément les matières, c'est ce que vous demandent aujourd'hui vos clients?
Alors, mes clientes, je pense qu'elles sont très sensibles à ça. Elles ont envie d'avoir un rapport direct avec la marque. Elles ont envie de savoir qui le fabrique, qui fabrique les vêtements. Surtout, envie de savoir que les gens qui fabriquent sont heureux de le faire et voilà, sont contents de faire ce métier et sont reconnus aussi. Moi, je parle beaucoup de ma fabricante, je raconte un peu ce qui se passe chez elle, etc. Toutes mes clientes la connaissent, savent comment elle s'appelle. Et je trouve que c'est important aussi de mettre en valeur les gens qui fabriquent et qui sont vraiment derrière les machines, derrière les machines à tricoter.
En tout cas, ou derrière les pulls que vous fabriquez, parce que aujourd'hui, la marque Katia Sanchez, ce sont des vêtements assez joyeux, des vêtements, des pulls de plaisir avec ses vraies valeurs aussi.
Oui, je pense que moi, j'adore la couleur, donc j'ai véhiculé aussi ça dans le style des pulls que je crée, qui sont des pulls ultra colorés ou avec des arcs-en-ciel, des cœurs, et ça véhicule effectivement une certaine ouverture aux autres, parce que je dirais que la couleur, c'est aussi s'ouvrir un peu aux autres. Et quand on porte un pull comme ça, ben on véhicule quelque chose, forcément. Une bonne humeur, une ouverture.
Je peux vous assurer qu'en ce moment, ça fait du bien. Pas de gaspillage, chez vous non plus, parce que tout est en précommande, et ça, c'est bien.
Alors, pas tout, mais une grosse partie de mes pulls sont vendus en précommande, effectivement. Sinon, le reste, c'est en petit stock réduit que j'aurai à sortir régulièrement. Et la précommande, ben, c'est un moyen assez simple et efficace de ne pas surproduire et d'utiliser les ressources de la planète uniquement pour ce qui est sollicité, c'est-à-dire que les clientes passent leurs commandes, et ensuite je réunis toutes ces commandes et je les donne à ma fabricante, donc on fabrique vraiment au plus juste, avec quelques pièces en plus pour les échanges de taille évidemment, mais ça permet vraiment de produire vraiment uniquement les bonnes quantités.
Merci beaucoup Katia Sanchez, merci beaucoup, allez voir sur ce site internet, vous allez voir de la couleur et de la beauté des pulls en matière 100% naturelle. Merci d'avoir été avec nous, restez sur Sud Radio dans un instant le grand matin et on se retrouve avec Philippe David à partir de 17h, à tout à l'heure.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.
Excellent réveil avec Sud Radio, il est 7h01.
Sud Radio. Parlons vrai.
Et le journal de 7h, c'est avec Laurie Leclerc. Bonjour Laurie.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Ce drame, un contrôleur du fisc des impôts tué hier dans le Pas-de-Calais à coups de couteau. Les détails de cette affaire en début de journal.
La réforme de l'assurance chômage présentée hier par le gouvernement, qu'est-ce qui va changer? On vous explique tout.
Une coupure géante d'électricité, 130 000 foyers privés hier dans le Tarn-et-Garonne. Ce n'était pas du délestage, jamais une coupure importante due à la foudre.
Les Bleus entrent ce soir dans la Coupe du Monde. Certains, cependant, ne suivront pas le match. On a rencontré ceux qui le boycottent.
C'est donc un contrôle fiscal qui a mal tourné. Un agent du fisc a été tué hier dans le Pas-de-Calais après avoir été séquestré. Il avait 43 ans.
Tué par un brocanteur, Maxime Troulot, qui s'est ensuite donné la mort.
Oui, par arme à feu. Cela s'est passé dans le petit village de Bulcourt, au sud d'Arras. Cet inspecteur a été tué de plusieurs coups de couteau après avoir été ligoté par ce brocanteur. L'inspectrice des impôts qui l'accompagnait va bien. Elle a été ligotée et a donc été emmenée à l'hôpital. Dès l'arrivée des pompiers, elle est aujourd'hui en état de choc. Le ministre délégué au compte public, Gabriel Attal, se rendra sur place ce matin. Il a adressé hier soir ses condoléances à la famille de la victime.
Ce drame innommable vient déchirer la vie de ses proches, de sa famille. C'est vers eux que vont nos pensées, et je le sais, celles de tous nos concitoyens. Vous me permettrez de dire que ce soir, le service public, il a le visage de ce chef de brigade, tué alors qu'il accomplissait sa mission, sa passion, au service du bien commun.
Gabriel Attal, hier soir au Sénat, une enquête de flagrance pour assassinat a été ouverte.
Les précisions de Maxime Troulot.
La mort de Vanessa aussi, le corps de l'adolescente devrait être enterré en Espagne.
Oui, il va être rapatrié dans la région de Grenade où elle a vécu plusieurs années avec ses parents. Des centaines de fleurs ont été déposées devant les grilles de son collège, près duquel la jeune fille de 14 ans a été enlevée vendredi avant d'être violée et tuée. Une marche blanche aura lieu ce vendredi après-midi dans la commune de Tonneins où elle habitait. Une cagnotte a également été créée pour aider financièrement la famille.
Oui, nous y reviendrons dans le journal de 8h tout à l'heure. La politique à l'Assemblée nationale avec un nouveau 49-3.
Hier, le cinquième déclenché par Elisabeth Borne pour faire adopter sans vote le budget de la Sécurité sociale. Une nouvelle motion de censure a été déposée par les députés de la France insoumise.
La réforme maintenant de l'assurance chômage, avec du changement pour les futurs demandeurs d'emploi.
Une assurance chômage que l'exécutif veut plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé. Pour tous les chômeurs qui ouvriront de nouveaux droits, la durée d'indemnisation va varier en fonction de la situation du marché du travail. Les explications de Mathilde Julien.
à partir du 1er février 2023, quand le taux de chômage sera en dessous de 9%, la durée de l'indemnisation va diminuer de 25%. Les allocations seront versées moins longtemps. Exemple, avec la réforme, un chômeur qui a droit à 24 mois perdrait 6 mois d'allocation. Un senior qui a droit à 36 mois en perdrait 9. En revanche, si le taux de chômage repasse au-dessus de 9%, alors les mois sont récupérés. Quelle qu'en soit la conjoncture, la durée d'indemnisation ne pourra pas descendre en dessous de 6 mois minimum. Et il y a des exceptions. Les ultramarins, les intermittents du spectacle, les marins pêcheurs, dockers et expatriés ne seront pas concernés par cette modulation.
Une mesure applaudie par le patronat mais dénoncée par les syndicats comme injuste et qui risque d'entraîner des effets négatifs. On écoute Nathalie Annette, présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage.
On aura donc un effet, certes, retour à l'emploi, mais qui ne répondra pas aux besoins de recrutement d'un certain nombre de métiers en tension qui sont parmi les 30 qui sont les plus en difficulté. Et d'autre part, un effet dépressif sur les salaires, puisque mécaniquement, quand on réduit la durée d'indemnisation, plus de personnes vont accepter des métiers moins bien payés que ce qu'ils connaissaient, et globalement, on va tirer vers le bas les salaires d'une partie de la population.
Nathalie Annette, enjointe par Mathilde Julien.
Oui, et que faut-il en penser, évidemment, de cette réforme de l'assurance chômage ? On vous dira tout, tout à l'heure avec Éric Revel, dans tout compte fait dans une vingtaine de minutes. Les magistrats mobilisés aujourd'hui contre une justice au rabais, je cite.
Oui, les mots utilisés par 19 syndicats de magistrats, avocats et greffiers qui protestent contre leurs conditions de travail. Ils appellent à renvoyer toutes les audiences aujourd'hui. Ils se rendront à midi devant le tribunal judiciaire de Paris. D'autres rassemblements sont également prévus en France.
On vous le disait en titre, une coupure massive de courant a privé les deux tiers du Tarn-et-Garonne d'électricité hier.
130 000 foyers ont été concernés un petit peu avant 17h autour de Montauban, Castelsarrasin, Valence d'Agen ou Moissac. Des trains sont également restés à l'arrêt en gare. Ce serait dû à un incident sur les installations de RTE, probablement causé par la foudre et aucun lien avec un éventuel délestage. La plupart des foyers ont pu retrouver le courant au cours de la soirée.
Une internationale ukraine et les habitants de Kherson encouragés à déménager pour l'hiver.
Le gouvernement ukrainien proposera une évacuation gratuite vers Krivkiye, Mykolaiv et Odessa. L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre un hiver qui met en danger la vie de millions de personnes en Ukraine après les séries de frappes russes sur des structures énergétiques du pays.
On passe au sport, Laurie, et une question pour certains. Alors, boycotter ou non la Coupe du Monde ? Et puis en même temps, les Bleus qui jouent ce soir.
Eh bien oui, serez-vous devant votre télé ce soir pour regarder les Bleus. Le match, c'est à 20h, France contre Australie. Jamais une Coupe du Monde n'aura fait autant polémique avec des appels au boycott qui se sont multipliés. Est-ce que cela va avoir un impact sur les supporters ? Lionel Maillet, c'est ce que vous avez voulu savoir.
Il entraîne une équipe de jeunes, ne manque pas un match de l'OM et pourtant ce soir, Pierre ne sera pas devant sa télé.
C'est pas une Coupe du Monde saine, c'est pas la fête du football, c'est la fête du profit. C'est pas une Coupe du Monde qui représente le sport, le football tel qu'on l'aime. C'est une Coupe du Monde du pognon, des pots de vin, l'argent qui passe avant tout.
Lui aussi d'y être bien conscient de ce qui se passe au Qatar, mais ça n'empêchera pas Robert de suivre les Bleus.
C'est que le côté sportif qui m'intéresse, les à côté effectivement, la construction des stades et tout, mais en fait je vais quand même suivre la compétition.
Un cas qui est loin d'être une exception, beaucoup de supporters sont du même avis.
C'est avant qu'il fallait faire quelque chose, à la limite. Le boycott aujourd'hui, ça n'a pas de sens.
Cette Coupe du Monde ne reste pas la vraie Coupe du Monde qu'on a connue ou que j'ai connue. Ça reste quand même un amusement pour les gens.
Il n'est pas trop tard, on peut encore agir, explique Benoît Magro du collectif Marseille Boycotte le Qatar.
Il y a des décisions qui ont été prises, c'est pas de notre ressort, les politiques n'ont rien fait, la FIFA, j'en parle même pas puisque c'est eux qui l'ont décidé. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est on n'est pas d'accord, on boycotte, on ne regarde pas, on vous le dit, et attention à la prochaine fois ce que vous allez faire. Parce que je suis persuadé qu'on est nombreux. Je suis sûr qu'on peut faire avancer les choses et j'ai envie que ce soit Marseille donne l'exemple. Voilà.
La cité phocéenne qui a été l'une des premières à annoncer qu'elle ne mettrait pas d'écran géant.
Un reportage de Lionel Maillet. Ceux qui assisteront au match ont déjà leur petite idée du pronostic.
J'espère qu'on va gagner, j'espère. Normalement, ça devrait le faire. Les premiers matchs, à mon avis, vont être un peu compliqués parce que c'est un groupe qui est nouveau, qui se connaît pas encore. Donc, du coup, on va voir ce que ça va donner.
Je suis jamais confiante à 100%, mais il y a toujours une lueur d'espoir et j'espère qu'on va gagner.
Allez, Australie, on va gagner 3-1. But de Giroud, doublé d'Mbappé.
2-0, 3-0, facile.
4-0, Mbappé.
Des scores recueillis par Clément Arion. Donc, on on espère une belle victoire des Bleus. En ce qui concerne les matchs d'hier, victoire de l'Angleterre contre l'Iran 6-2, 2-0 des Pays-Bas contre le Sénégal. Match nul, USA-Pays de Galles, un partout.
Merci à vous. Un petit mot, un rappel de la vigilance orange tout de même dans les Pyrénées-Atlantiques. Hein, c'est... Mais il n'y a pas eu de débordement, pas de problème de pluie. Hein, ce que me confirme à l'instant notre grande correspondante en fait dans toute la région, Christine Bouillot. Merci Laurie.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger, Laurie Leclerc.
Et les questions du jour, justement, Laurie, autour notamment de la Coupe du Monde, mais pas seulement.
Voilà, pas seulement hein, la Coupe du Monde. C'est allez-vous regarder le match des Bleus contre l'Australie? Oui, non, je ne sais pas encore.
Ah! Voilà. Alors, on va tout vous dire tout à l'heure. Vous échangez beaucoup, évidemment, sur les réseaux, que ce soit sur Twitter ou YouTube. Allez-y et puis donnez-nous votre avis. Autre question.
Sur l'assurance chômage, selon vous, est-ce une solution de réduire la durée de l'indemnisation? C'est une bonne idée. Dans certains cas, c'est injuste ou c'est inefficace?
Et là, vous êtes assez partagé. Vous dites dans certains cas, et c'est injuste à 29%, c'est inefficace à 27%, c'est une bonne idée seulement 15%. Et puis, la troisième question du jour, parce qu'il y en a trois ce matin.
Hein. Êtes-vous favorable à la réintégration des soignants non vaccinés? Oui, immédiatement. Après des avis scientifiques, ce n'est pas éthique ou bien non?
Oui, parce qu'on vous pose cette question, parce que le ministre de la Santé, François Braun, a dit qu'il attendait les avis de deux comités scientifiques en début d'année. Et là, à cette question, vous répondez oui, immédiatement, à 96% avec beaucoup de commentaires. Nous y reviendrons tout à l'heure, notamment à 8h15 dans la chronique d'Elisabeth Lévy. Sur la Coupe du Monde, il y en a qui sont quand même passionnés en fait de foot, mais qui s'obligent à une sorte de droit de réserve, c'est ça. Nous sommes avec Yves Castera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes animateur du collectif de synthèse des Gilets jaunes dans les Hautes-Pyrénées et vous avez une idée originale pour vous singulariser autour de cette Coupe du Monde qui a lieu au Qatar. On va voir ça dans un instant avec vous sur Sud Radio. Il est 7h10. Bon réveil à tous.
Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio est de retour. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger.
Il est 7h14. Il y a donc l'ouverture pour les Bleus de la Coupe du Monde ce soir, le match contre l'Australie. Alors, il y a ceux qui détestent, quoi qu'il en soit, qui ne regardent jamais les matchs. Il y a ceux qui s'y intéressent à l'occasion, quand il y a des grands événements. Et puis, c'est vrai, cette année, eh bien, c'est extrêmement controversé avec ce mondial qui a lieu au Qatar. Yves Castera, animateur du collectif de synthèse des Gilets jaunes dans les Hautes-Pyrénées. Yves Castera, vous êtes un passionné, en fait, de foot, mais vous avez trouver un moyen original de contester contre l'organisation de ce mondial qui a lieu au Qatar. C'est ça, vous allez organiser un mondial de baby-foot, hein ?
Oui, merci de m'accueillir. Oui. Oui, on va organiser à Bagnères, au Café des Possibles en Bigorre, au niveau du tiers-lieu à Bagnères. On va organiser donc ce mondial de baby-foot pour qu'on puisse rentrer un petit peu dans une forme d'expression locale pour défendre le sport, le vrai sport, celui qu'on pratique localement, celui qu'on pratique aussi dans notre territoire, le sport de l'inclusion, le sport qui fait que ben, nos enfants puissent apprendre des règles, les accepter avant de rentrer sur le terrain et de les respecter sur le terrain. L'apprentissage du vivre ensemble, c'est ça aussi le sport.
Ouais.
Parce que là, on nous fait croire effectivement que le sport, c'est ce qui va se passer au Qatar, et nous passons...
Qu'est-ce que vous contestez dans ce qui se passe au Qatar avec cette organisation de la Coupe du Monde, Yves Castera?
Alors, ce que l'on conteste, c'est la financiarisation du sport.
Ouais.
En réalité, quand on se rend compte à quel point pour participer à ce mondial, il a fallu passer par des portes qui sont pour nous intolérables. Mmh. Ça s'est passé il y a une dizaine d'années environ sous Nicolas Sarkozy, quand la France a voté pour que le Qatar puisse obtenir le mondial de foot, eh bien, il a fallu négocier sur le rachat du PSG, il a fallu négocier sur la vente de Rafal. On n'est pas dans le sport, on est dans la politique, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron. Ça, c'est une première chose.
Ouais.
Et puis...
Il n'y avait pas que la France, hein, Yves Castera. Il n'y avait pas non, que non. la France, hein, bien sûr, parce que sinon, ce mondial n'aurait pas eu lieu là-bas, quoi.
Non, il y avait 14 pays, je crois. Voilà, il y avait 14 pays qui ont voté. Je ne suis pas sûr du chiffre, mais c'est pas loin.
Ouais.
Voilà. Et puis, il y a un problème de civilisation. Le terme de civilisation, je pense que tout le monde peut s'accorder là-dessus, c'est s'éloigner de la barbarie.
Ouais.
Or, quand on construit des stades de foot et qu'on va faire la fête, ouvrir des bières, crier des hurrahs et verser une petite larme quand l'équipe de France va gagner sur un cimetière de 6500 morts, je pense qu'on s'approche de la barbarie, on s'éloigne de la civilisation. Mmh. Et c'est ce qu'on veut porter, nous, à travers ce mondial de...
Du baby-foot. Oui, du baby-foot. Mais est-ce que, parce que vous êtes un passionné, quand même, Yves Castera, d'une manière ou d'une autre. Oui, du sport, mais d'une du football, non, ou pas?
J'aime le foot autant que le rugby, que le basket, que le handball, en termes d'intégration, voilà. Mmh. En termes de valeur que peut porter le sport collectif, parce que c'est du sport collectif, c'est l'apprentissage du vivre ensemble.
Ouais.
Donc c'est tout ça qu'il faut mettre faut mettre en exergue quand on parle d'une compétition. Puis le foot,
oui.
Le foot, c'est sympa, moi. Oui. Moi, j'aime le foot.
Oui. Bah oui. Et alors, est-ce que vous allez quand même suivre d'une manière ou d'une autre, même si évidemment vous avez ces actions symboliques qui sont l'occasion, justement, à l'occasion du mondial, de dénoncer certaines choses. Vous allez quand même suivre un petit peu les matchs ou pas?
Alors oui, parce qu'on connaît le pronostic.
Oui.
Le pronostic, c'est zéro pour l'humanité, des milliards pour les milliardaires. Voilà, ça c'est notre pronostic.
Oui.
Voilà.
Ouais. Bon.
Voilà. D'accord. Donc non. En réalité, non. Très clairement, nous n'allons pas le suivre. Par contre, j'appelle vraiment, j'appelle la population à s'intéresser au foot dans nos localités.
Ouais.
Allez voir les jeunes jouer, allez voir le sport.
Et les autres sports, oui, bien sûr, et tous les autres sports.
Non, mais autres sports, mais là on parle du foot. Voilà,
en plus, on a besoin de bénévoles aujourd'hui dans les clubs. Il y a eu une crise du bénévolat.
Justement, c'est une passerelle que vous me montez là.
Oui.
Mais pour avoir des bénévoles, il faut sortir rapidement de la retraite parce que les associations, elles sont tenues par des bénévoles qui sont à la retraite.
Oui,
donc,
c'est vrai.
Limitons l'âge de la retraite et on aura plus de bénévoles et les associations fonctionnent moins.
Yves Castera, vous avez un sens de la synthèse. Évidemment, vous réunissez tous les autres sujets. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et je le rappelle, évidemment, aussi, il y a un côté anecdotique, bien sûr, mais tout de même, votre mondial du baby-foot, il aura lieu à Bagnères, le Café des Possibles, le 26 novembre prochain, dans quelques jours. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Sud Radio.
7h-9h, le grand matin Sud Radio.
7h19, un contrôleur fiscal tué à coups de couteau. Hier, l'homme de 43 ans était séquestré par un brocanteur qu'il allait contrôler. Le brocanteur qui s'est ensuite suicidé. Il y a une autre agent de la fiscalité qui, elle, a été attachée, effectivement, et a assisté à cela. Cinquième 49-3 déclenché par Elisabeth Borne pour faire adopter sans vote le budget de la Sécurité sociale. La France insoumise a déposé une nouvelle motion de censure. Et puis, les Bleus, ce soir, à 20h, pour l'ouverture de leur Coupe du Monde contre l'Australie.
Le Grand Matin Sud Radio, hashtag Mondial 2022.
Hashtag Mondial 2022 avec Benjamin Glaise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors la journée d'hier a été marquée, Benjamin, par un record. Le match le plus long enregistré dans la compétition depuis 66, c'est ça?
Ouais, effectivement, ça remonte 117 minutes 16 secondes. C'est le temps qu'a duré au final le match Angleterre-Iran, qui s'est soldé par un festival des Anglais, 6 buts à 2. Ça fait près de 30 minutes de temps additionnel au total. C'est énorme. Décision prise notamment pour compenser le temps perdu suite au chaos subi par le gardien iranien en début de match.
Regardez, Hosseini.
Oh là là, tête contre tête, Jean-Charles. Oh là là, l'image.
Quelle cartouche dans la surface de réparation iranienne.
Regardez. Oh.
Un choc impressionnant, mais au-delà de ça, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux à avoir noté le penchant des arbitres pour des temps additionnels à rallonge, une constante déjà dans ce mondial. Lors des 4 premiers matchs, il y a eu pas moins de 66 minutes de temps additionnel. Bientôt, il y aura une troisième mi-temps dans le temps additionnel. S'amuse d'ailleurs un internaute. D'autres s'en agacent de ces matchs qui s'éternisent. Mais alors, tout ça ne tient pas du hasard. C'est une volonté de la FIFA de décompter le moindre temps perdu pendant un match. Les fautes, par exemple, les blessures, encore les touches. Et ce, pour maximiser le temps de jeu effectif. D'ailleurs, ces directives passées aux arbitres, elles font écho à une info révélée à l'époque, au printemps dernier, par le quotidien sportif italien, le Corriere dello Sport, qui affirmait que la FIFA allait rallonger les matchs de 90 à 100 minutes pour le mondial au Qatar. La formation avait été démentie à l'époque par Infantino, le patron de la Fédération internationale de football, pour éviter toute polémique. Alors certes, le temps réglementaire n'a pas bougé, mais grâce à ces temps additionnels à rallonge, eh bien tous les matchs dans ce mondial ont dépassé la barre des 100 minutes de jeu.
Ah bon, vous êtes prêts pour ce soir?
soir.
Donc ce soir, ça va peut-être durer un peu plus longtemps que prévu.
Normalement, c'est 90, hein, plus
normalement.
Plus la mi-temps, oui, normalement. Merci à vous, Benjamin Glaise. Tout compte fait, Éric Revel, bonjour.
Messieurs, Patrick, Roger, Benjamin, Glaise, bonjour.
Les indemnités de l'assurance chômage qui vont diminuer. Hein. Parlons de cette réforme annoncée hier par Olivier Dussopt, ministre du Travail. Avant de détailler les mesures, pourquoi est-ce qu'il y avait une nécessité de cette réforme de l'assurance chômage ?
Oui, d'abord, le pourquoi de cette réforme de l'assurance chômage, bon, bah, c'est clairement la volonté du gouvernement, on peut le comprendre, hein, de fluidifier le marché de l'emploi. Il y a des secteurs économiques, hein, une trentaine sous tension de main-d'œuvre dans notre pays. Le but est donc clairement de pousser ceux qui sont privés d'emploi à accepter un travail, parce que le travail, ne l'oublions pas, c'est aussi un lien d'intégration sociale, donc à accepter un travail plutôt que les indemnités Pôle emploi. En 2023, l'objectif ambitieux du gouvernement, hein, donc l'année prochaine, c'est de remettre 150 000 personnes sur le chemin de l'emploi.
Alors, il y a des critiques qui viennent notamment des syndicats. Quelles sont les mesures annoncées hier ?
Alors, la période, hein, il faudra avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers pour toucher des indemnités à partir du 1er février. Les indemnités, en fait, seront réduites en volume de 25%, si on regarde bien, sur cette période, ce qui est un vrai sujet, parce que 25% sur une durée d'indemnisation plus l'inflation qui rogne le pouvoir d'achat, ça donne des situations complexe. Alors le mécanisme est un peu technique, mais je vous le rappelle, tout ça, ça rentrera en application si le taux de chômage est inférieur à 9%. Ouais. À 9%. Or, en ce moment, le taux de chômage, d'après l'INSEE, il est de 7%. Donc vous voyez que le mécanisme, il va sans doute très durer, il va beaucoup durer, surtout que le gouvernement vise en 2027 les 5% de chômeurs, ce qu'on appelle le taux incompressible de chômage, c'est-à-dire le plein emploi. Donc, si on est à 5% en 2027, autant vous dire que cette réforme va rester en place très, très, très longtemps.
Alors, on dit qu'il y a quand même un problème, notamment pour les chômeurs, les seniors, les plus âgés.
Ben oui, parce que il y a beaucoup d'interrogations autour, notamment des plus de 55 ans, qui sont éjectés assez souvent des entreprises et qui vont devenir, en quelque sorte, des travailleurs pauvres. Parce que les plus de 55 ans, on le sait, ben, ils ne retrouveront pas de travail, puisqu'en général, ils quittent l'entreprise vers les 55 ans. Une fois qu'ils ont épuisé leurs droits à Pôle emploi, ben, ils risquent tout simplement de basculer dans la précarité. Alors même si, et c'est à noter, l'employabilité des seniors, a progressé dans notre pays.
C'est-à-dire qu'on recrute plus de seniors aujourd'hui.
Oui, on recrute plus de seniors pour une raison très simple, c'est que comme il y a des secteurs en tension de main-d'œuvre et qu'on n'arrive pas à recruter, ben on a tendance à garder plus longtemps les seniors dans l'entreprise. Le taux a remonté en France. Et puis autre souci quand même, Patrick, les chômeurs ne sont pas des simples travailleurs qui seraient interchangeables, quel que soit le secteur économique.
Ouais.
Et le poste proposer. La question donc de la formation avant de retrouver un emploi est déterminante avec cette réforme du gouvernement.
Dernier petit point, rapidement, Éric Revel, 25% d'indemnité en moins pour les nouveaux chômeurs, c'est quand même énorme,
surtout dans
ce contexte d'inflation.
Bien sûr, l'année 2023 en plus s'annonce difficile, on dit que la France, comme d'autres pays, peut basculer dans la récession. Donc les nouveaux chômeurs, risquent de basculer eux aussi dans des difficultés économiques très forte. J'ai fait un petit calcul. Le taux de chômage devait repasser au-dessus des 9% en 2023, par exemple, il faudrait 800 000 chômeurs de plus sur l'année prochaine, ce qui paraît impossible. Et puis surtout, ce qui signerait l'échec de la politique économique du gouvernement. Donc en réalité, cette réforme, elle est là pour durer, quel que soit l'effet de cliquet. En attendant, le gouvernement, il fait le pari que cette réforme de l'assurance chômage poussera les sans-emploi à reprendre le marché du travail, mais n'aborde pas, à mon sens, suffisamment la question de la paupérisation de ces chômeurs.
Éric Revel, vous reviendrez, nous en parlerons, nous en débattrons. Et puis, si vous avez des questions à poser à Éric Revel, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, derrière qui arrivent. Moi, j'en ai déjà une petite dizaine qui arrive, derrière ce que vient de dire Éric, qui commence à s'inquiéter. Eh bien, vous nous appelez 0826-300-300 et tout à l'heure à 9h-20, nous répondrons à toutes vos questions. Allez, la petite réplique du matin, puisqu'on parle de chômage, tiens. Le chômeur préféré des Français, Coluche.
Quand j'étais petit, je voulais être chômeur. Maintenant, je suis grand, je suis chômeur. J'hésitais entre ouvrier chômeur et patron chômeur, et puis finalement, j'ai pris ouvrier. Eh ben, je suis content parce qu'il y a plus de choix. On est peinard, vous voyez, pour choisir, on a... Ah oui, il y a du choix, hein, c'est bien. Parce que tout le monde gueule, on dit...
Ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait.
Coluche, la meilleure des conclusions. Allez, le journal dans un instant. L'édito politique, hein. Nous sommes mardi, c'est Lydia Guirous dans une dizaine de minutes. Vous écoutez Sud Radio, il est 7h30.
Parlons vrai.
Très bon réveil à vous en ce mardi 22 novembre. Les informations avec vous, Mathieu Bellisario. Bonjour Mathieu.
Bonjour Patrick, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, les choses sérieuses commencent pour les Bleus. Premier match dans la Coupe du Monde de foot pour l'équipe de France opposée à l'Australie. Ce soir, on verra dans quel état d'esprit sont les supporters tricolores avant la rencontre. Magistrats, avocats et greffiers, ils seront tous dans la rue aujourd'hui. Journée de grève dans le monde de la justice pour demander plus de moyens. Enfin, plus que jamais, ils comptent sur vous. Les Restos du Cœur lancent aujourd'hui leur 38e campagne d'hiver dans un contexte très difficile marqué par une hausse de la précarité. C'est le grand jour pour l'équipe de France de foot. Les Bleus font leur entrée ce soir dans la Coupe du Monde au Qatar. Premier match face à l'Australie, un adversaire que les tricolores avaient d'ailleurs déjà affronté il y a 4 ans en ouverture du précédent mondial. Et 4 ans plus tard, eh bien, les hommes de Didier Deschamps arrivent cette fois avec un titre de champion du monde à défendre. Et malgré les nombreux absents, Benzema, Pogba ou Kanté, eh bien, les supporters des Bleus restent confiants à l'image d'Hervé Mougin, patron des Irrésistibles Français, principal groupe de supporters tricolore.
Toujours confiant pour l'équipe de France, quelque part, parce qu'on sait qu'on a les moyens avec la qualité des joueurs que l'on a sur le papier. Après, on peut avoir effectivement quelques surprises sur certaines Coupes du Monde ou Euro, là, on l'a connu. Donc, je sais qu'on a la qualité pour aller au bout, qu'on fait partie des favoris, c'est pas toujours la meilleure chose. Faudra déjà sortir du groupe, parce que c'est une malédiction, a priori, des champions du monde en titre. Mais moi, je suis confiant. J'espère qu'on sera dans le dernier carré et qu'on pourra défendre notre titre vaillamment.
Voilà, France-Australie, coup d'envoi de la rencontre à 20h ce soir, à suivre également aujourd'hui dans le groupe de la France, Danemark-Tunisie, c'est à 14h. Parmi les autres matchs du jour, Argentine-Arabie Saoudite et Mexique-Pologne. Et puis on rappelle les résultats d'hier avec le carton de l'Angleterre, 6-2 face à l'Iran, la victoire des Pays-Bas 2-0 contre le Sénégal et le match nul 1-1 entre les États-Unis et le Pays de Galles. Dans le reste de l'actualité, ce drame dans le Pas-de-Calais, un agent du fisc a été tué de plusieurs coups de couteau lors d'un contrôle chez un brocanteur. Ça s'est passé hier dans le village de Bulcourt. La victime est un fonctionnaire de 43 ans. Il était accompagné d'une collègue lorsque les faits se sont déroulés. Cette dernière a été retrouvée en vie, ligotée sur une chaise. Le meurtrier présumé s'est lui donné la mort. Les magistrats dans la rue, les syndicats appellent à manifester aujourd'hui pour demander plus de moyens humains et matériels. Il y a un an déjà, le 23 novembre 2021, près de 8000 personnels judiciaires signaient une tribune pour dénoncer leurs conditions de travail. Et un an plus tard, eh bien, Ludovic Fria, le président de l'Union syndicale des magistrats, ne constate aucune amélioration. Écoutez.
Dans les juridictions, c'est-à-dire dans les tribunaux, dans les cours d'appel, la situation ne sait que pas ou peu améliorer vraiment à la marge, mais surtout dans bien des endroits, elle a continué à se dégrader. Parce qu'on part de tellement loin, on part de 30 ans, voire plus d'abandon, que les moyens supplémentaires qui sont mis en œuvre doivent être, on va dire, divisés, doivent être saupoudrés entre les différentes juridictions, ce qui fait que au quotidien, la plupart des services et de nos collègues ne voient pas la différence.
Une situation qui affecte également les justiciables, avec notamment un allongement des délais pour les auditions. Un été de tous les records en France. Triste record, après des températures très élevées, la période estivale 2022 a connu la surmortalité la plus importante depuis la canicule de 2003. Près de 10 000 personnes sont mortes cet été, selon les chiffres de Santé publique France. Des décès liés aux fortes chaleurs, mais aussi au Covid. C'est la classe d'âge des plus de 75 ans qui a été la plus touchée, avec près de 2300 décès. Pour beaucoup, c'est le seul endroit où trouver de la nourriture. Les Restos du Cœur lancent aujourd'hui leur 38e campagne d'hiver. L'an passé, l'association fondée par Coluche avait accueilli 1,1 million de bénéficiaires et distribué 142 millions de repas. Des chiffres qui devraient encore augmenter cette année avec l'inflation galopante. Patrice Drouet est le président des Restos du Cœur.
C'est une augmentation que l'on connaît déjà, malheureusement, avant même de débuter cette 38e campagne. Aujourd'hui, on constate déjà, de l'été dernier, dernier à l'été 2022, une augmentation de 12% du nombre de personnes accueillies et de 15% du nombre de familles. L'accès à l'alimentation aujourd'hui est beaucoup trop difficile pour les plus modestes, pour les plus démunis, mais également pour toutes les activités d'accompagnement et d'aide à la personne qui viennent au-delà de l'aide alimentaire, qui permettent ce que nous souhaitons, que les personnes que nous accueillons quittent nos centres d'activité au plus vite, parce que ça voudra dire qu'effectivement on a réussi et elles ont réussi avec nous, parce que c'est d'abord un combat que ces personnes l'amènent à sortir plus vite d'une période que chacun de nous peut connaître.
Et cette année, les Restos du Cœur vont également renforcer leur accueil des jeunes enfants. Il faut savoir que les mineurs représentent 40% des bénéficiaires de l'association. On termine avec des intempéries, toujours dans le sud de la France. Vigilance orange maintenue sur les Pyrénées-Atlantiques pour pluie et risque d'inondation également dans les deux départements de Corse. Cette fois pour des vents violents avec des rafales à plus de 140 km/h attendues ce matin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous retrouvez tout de suite Le Grand Matin sur Sud Radio avec Patrick Roger.
Oui, merci mon cher Mathieu.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger.
7h36 sur Sud Radio. Je ne sais pas si vous êtes allé en pharmacie ces derniers temps, mais quand vous demandez certains médicaments, on vous dit « Ah non, alors là, il n'y a plus celui-ci, il y a un générique, il faudrait voir avec le médecin. » Il y a une pénurie de médicaments. C'est vrai pour des sirops, c'est vrai avec parfois le Doliprane, et c'est vrai aussi... paraît-il, demain pour des antibiotiques, l'amoxicilline. Pourquoi cela? Eh bien, nous allons tout vous dire dans Sud Radio. Vous explique dans un instant, avant de retrouver le médicament à tous du petit matin, évidemment, Guy Carlier et sa dose d'humour, juste avant le journal de 8h. Et chaque mardi, l'édito politique avec Lydia Guérousse. Bonjour Lydia.
Bonjour Patrick et bonjour à tous.
Alors, vous avez veillé, pas trop tard, mais vous avez regardé quand même le débat entre les trois candidats à la présidence du Parti des Républicains, Ciotti, Retailleau et Pradier. Et selon vous, Lydia, c'est une clairvoyance sur l'état du parti qui en est sorti et surtout un absent très présent, vous nous dites ce matin.
Oui, pas de surprise hier, lors de ce débat, il y avait trois nuances de droite républicaine sur le plateau, avec Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Aurélien Pradier, bien sûr. Il y avait du niveau, de la solidité, de la préparation, chacun était dans son sillon, des convergences évidemment, et un véritable point d'accord sur l'état du parti. Les Républicains sont abîmés, ils ont déçu, mais ils sont encore là, les élus sont présents, l'envie de victoire est bien présente, et puis la fin du macronisme approche et un leader pourrait et doit se préparer pour 2027, et c'est de lui dont on a beaucoup parlé.
Ah bah c'est ça, donc il y a une incarnation, alors lui ou elle bien sûr.
Ah, il serait temps que cette incarnation arrive. Oui. Durant une bonne partie de la soirée hier, c'était la présence de Laurent Wauquiez qui planait sur ce débat.
D'accord.
La droite, comme l'a rappelé Éric Ciotti, c'est une incarnation, un chef qui doit chefé. Éric Ciotti a été le plus clair sur ce point. Sa présidence sera la présidence des... Ce ne sera pas la présidence des conventions à non plus finir et des réunions débats dont on ne sait pas sur quoi elles aboutissent. Ça sera celle de la mise sur orbite d'un candidat solide à la présidentielle en la personne de Laurent Wauquiez et surtout la fin des primaires. Vous savez, ce mode de désignation qui a été importé des États-Unis et qui a été copié à la gauche française. Ces primaires qui ont accéléré et développé les rancœurs au sein de la droite et qui sont si contraires à la culture du chef de la droite. Évidemment, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier sont réservés et même très, très opposés à cette option.
Oui, mais les LR auront-ils vraiment le choix ?
Non, il y a urgence à bouger, il y a urgence à proposer et surtout à incarner rapidement. Bruno Retailleau l'a souligné, la marque est morte. En tout cas, elle est très très abîmée. Elle est morte, mais avec des élus, une présence territoriale, des forces vives, un corps qui bouge encore, comme l'a indiqué Éric Ciotti. Alors, il faut le réanimer, ce corps. Il faut de l'oxygène pour les Républicains, des convictions, de la constance et moins de querelles d'égo s'ils en sont capables. Alors, désigner un chef pour 2027 n'est pas sans risque, c'est vrai, mais c'est la garantie de mettre toutes les énergies en rang pour mener la bataille qui arrive dans quelques années. Moins d'égo s'ils y arrivent, plus de boulot et surtout le devoir d'offrir une alternative aux Français pour 2027. Une alternative pour sortir du binôme funeste que pourrait être un second tour extrême droite contre extrême gauche. Une alternative ni ringarde ni girouette.
Merci Lydia Guérousse. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez regardé vous aussi ce débat ou en entendant en tout cas le résumé avec Lydia Guérousse, vous pouvez nous appeler 0826-300-300, vous aurez la parole. Et puis je l'évoquerai aussi d'ailleurs tout à l'heure avec mon invité politique à 8h15 qui sera Nicolas Dupont-Aignan. Justement, vos appels 0826-300-300, c'est Richard de Nîmes qui ne veut pas nous parler de politique, mais qui veut nous parler d'énergie. Bonjour mon cher Richard.
Oui, bonjour Patrick. Bon. Et merci de donner la parole à un ingénieur.
Oui, vous êtes ingénieur consultant en énergie, hein, c'est ça?
Exactement, oui.
Oui.
Alors, le temps m'est compté, donc je vais tâcher d'être le plus concis, le plus clair possible.
Oui.
Alors, moi, je souhaite d'abord rappeler que les lois de la physique, et plus particulièrement celles de l'électricité, ne peuvent pas être niées ou faire l'objet de tentatives d'obscurantisme par les politiques de tous bords. L'électricité, comme vous le savez, ne se stocke pas, sauf à très petite échelle, dans une pile. Donc ça ne peut pas être un bien marchand comme un autre. Et là, c'est une grosse erreur qu'a fait l'Europe. La production, elle doit être égale à chaque instant à la consommation demandée, sous peine de perturber la fréquence et la tension du grand système électrique. Un rappel important à ce sujet, et ça, je suis désolé, mais j'ai oublié de donner quelques chiffres.
Oui.
En février 2012, quand il a fait très froid, on a eu une puissance historique de 102 000 mégawatts et EDF et RTE ont pu y faire face, avec tous les moyens de l'époque de production du parc à l'époque, d'accord ? Avec très peu d'importations. Alors, quand serait-il l'hiver prochain ? 10 ans après. Malheureusement, on aura au mieux 70 000 mégawatts.
Pourquoi ?
Donc, si vous voulez. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que certains... que je n'aimerais pas, ont voulu décarboner brutalement notre production, nous ont obligés à couper 12 000 mégawatts de fuel gaz, sans parler évidemment des pauvres 2 000 mégawatts de Fessenheim. Donc tout ça, si vous voulez, avec une fantasmagorie extraordinaire développée par l'ADEME, les gigawatts, et le RTE de l'époque, dont le président n'avait aucune compétence en matière d'électricité. Tout ça pour dire que finalement, on ne va avoir que cela et ça va être effectivement vraiment dur. Alors je parlerai après du prix puisque finalement un truc qu'il faut venir voir, c'est que depuis la guerre, alors c'est donc le paradoxe de cette guerre qui a réveillé certains esprits, c'est la panique.
Ouais.
C'est la panique, vous le savez.
Ouais.
Et le prix de l'élec, il est adossé au dernier moyen de production qui en fait est le gaz ou le turbine à gaz de pointe. Donc, le prix de gros du marché qui était passé, qui était de 58 euros le mégawattheure, il est passé à 350, puis maintenant à 600. Et alors, vous saviez qu'il y a eu un tas de fournisseurs alternatifs, il y en avait 82, je crois, plus de la moitié ont mis la clé sous la porte. Moralité, il y a 100 000 clients qui sont revenus au bercail chez EDF.
C'est EDF.
Par mois. Par mois.
Ouais.
Sauf que, EDF, il a déjà vendu des blocs de production.
Ouais.
Il est donc obligé d'acheter à des prix fantastiques pour effectivement assumer les pointes.
Ouais.
On arrive à 1 000 euros en pointe achetée pour l'année prochaine.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, non, mais c'est vrai que la conclusion, Richard, parce que c'est une bonne démonstration que vous avez faite. Je pense qu'on pourra vous reprendre effectivement aussi à l'occasion quand on sera dans des périodes un peu critiques, mais. On n'a pas anticipé en fait tout ça. C'est la mauvaise gestion catastrophique que vous dénoncez au passage. Merci en tout cas, Richard. Si comme Richard, vous voulez prendre la parole et vous expliquer sur un sujet dans les thèmes de l'actualité, vous n'hésitez pas. 0826 300 300. On vous donne la parole sur quelques minutes et puis on peut vous la redonner bien sûr par la suite. Hein. Vous n'oubliez pas Sud Radio, c'est aussi vous qui l'a fait, les auditeurs en nous appelant. Et en nous faisant part de faits, bien sûr. Souvent, il faut donner, certes, des analyses, mais il faut commenter, mais il faut partir quand même du factuel. Dans un instant, les pénuries de médicaments. Là, on était sur l'énergie, les pénuries de médicaments. Il est 7h43 sur Sud Radio. Bon réveil à vous.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger.
7h47, Sud Radio vous explique pourquoi il y a un risque de pénurie de médicaments. Nous sommes avec Raphaël Gigliotti, trésorier du syndicat de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine des Alpes-Maritimes. Bonjour à vous.
Bonjour Patrick.
Merci d'être avec nous ce matin. Quels sont les médicaments les plus touchés? Je disais, on parle du sirop, doliprane, etc. Amoxicilline.
Alors effectivement, là, ce sont les deux médicaments qui sont mis en lumière parce que c'est des médicaments... que énormément de personnes utilisent, mais ça existe sur d'autres molécules et c'est assez cyclique en fait.
Oui, c'est ça. Pourquoi il y a quand même ce risque aujourd'hui ? Comment ça s'explique ?
Alors, c'est un peu plus qu'un risque, hein, c'est une réalité. Hein.
Oui.
Là, aujourd'hui, l'amoxicilline est vraiment manquante dans toutes les pharmacies. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on se bat dans l'ensemble du réseau pour pouvoir commander cette amoxicilline entre les différents laboratoires qui en fabriquent. Mais malgré ça, là, on est arrivé à un moment de rupture où on a plus ce produit à disposition pour soigner les personnes.
Oui, alors, amoxicilline, on le rappelle, c'est des antibios, hein, ce sont des antibiotiques. Donc, alors, si je viens chez vous avec une ordonnance où on me demande de prendre des antibiotiques parce que je n'arrive pas à me débarrasser de quelque chose, qu'est-ce que vous proposez en échange, alors, en alternative ?
Alors, pour vous, vous avez la chance d'être un adulte, donc j'arriverai encore à vous soigner. L'amoxicilline adulte,
oui.
Forme adulte est encore disponible, mais alors, pour vos enfants, ça devient problématique. Soit on arrive encore à trouver des formes selon le poids de l'enfant, où on va essayer de couper des comprimés d'adultes, mais c'est un peu scabreux, donc c'est difficile à faire. Ou alors, l'alternative, c'est dans un premier lieu, de revoir avec le prescripteur éventuellement pour partir sur une autre forme d'antibiotique. Et puis, c'est ce que nous demande le ministère, c'est de vérifier si cet antibiotique est bien adapté. Est-ce que peut-être c'est pas une forme virale qui ne nécessite pas d'antibiotique ? Donc ouais. Là, le rôle du pharmacien peut être intéressant.
Oui, et puis les médecins qui, du coup, vont prescrire un petit peu moins, alors j'imagine, d'antibiotiques, une forme de rationnement. On en arrive là. Sur les explications, alors sur cette pénurie, c'est parce qu'on n'arrive plus à produire, on a pris du retard pendant le Covid, c'est ça ?
Alors, la production, faut bien comprendre qu'elle se fait pas uniquement en France. Hein. Il y a très très peu finalement de molécules qui sont faites en France. Une grosse partie de la production est mondialisée. Et en fait, toute la problématique est située sur le fait que cette production étant mondialisée, dès qu'on a un couac sur la chaîne de production, un manque d'une molécule il y a 10 000 autres raisons, hein, en fait, pour le fait qu'il peut y avoir un souci de production. Eh ben, le premier pays impacté, c'est celui qui finalement achète le moins cher de ses molécules. Et aujourd'hui, la France est devenue un des pays mondiaux dans lequel on achète le moins cher les médicaments. Et donc, forcément, nous sommes les premiers impactés par toutes les ruptures.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments qui pourraient être concernés là dans les semaines qui viennent, Raphaël Gigliotti ?
Alors, je suis sûr qu'il y aura d'autres médicaments,
oui.
Mais je n'ai pas ma boule de cristal avec moi. Je
ne
peux pas vous le dire parce que c'est malheureusement, c'est vraiment, il n'y a pas d'histoire préécrite sur le sujet. On ne sait pas quel médicament va tomber. C'est vraiment le suspense toutes les semaines quand on ouvre nos pharmacies.
Oui, c'est ça. C'est inquiétant ou pas ? Ou alors, ce n'est que très ponctuel et il n'y a pas de raison de paniquer ?
Oui, c'est inquiétant parce que c'est un sujet qu'on remonte déjà depuis plusieurs années.
Mmh.
Et on voit que la chose s'amplifie. Mmh. Et de plus avoir d'amoxicilline ou même de sirop de doliprane, dans l'arme thérapeutique qu'on peut utiliser pour les enfants, ça devient très, très, très difficile et compliqué à soigner.
Mmh.
Et on se dit que ce qui est en train de se passer cette année va être encore plus dur les années prochaines. Donc, on ne sait pas comment ça va
évoluer. Merci beaucoup pour ces explications, Raphaël Gigliotti, trésorier du syndicat de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine des Alpes-Maritimes, sur cette pénurie qui existe déjà de médicaments, et notamment autour des antibiotiques. Merci. 7h52, Laurie est à mes côtés pour présenter la chronique de Guy Carlier, parce que je dois garder quand même une petite réserve, ma chère Laurie, vous comprenez bien, je perds toute ma crédibilité journalistique lorsque notre ami Guy évoque les prairies humides d'un ministre. Alors, allez-y Laurie.
D'une ministre. Ça commence mal.
Les auditeurs ont compris, auditeurs ont compris la justification de la présence de Laurie.
Oui.
C'est clair, ça ne savonne pas, ça après. Allez-y, Laurie.
Voilà,
mais oui,
ça.
Bonjour Guy, bonjour Patrick, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, Guy, votre chronique, c'est très foot évidemment, avec le premier match des Bleus, c'est ce soir contre l'Australie.
Oui, c'est vrai, merci, merci Laurie. Et chronique également placée, malgré tout, sous le signe de l'humour. Car vous avez remarqué, aujourd'hui, l'humour constitue le fil rouge de la matinale, avec en apothéose l'interview à 8h15 d'un grand monsieur du rire, un des membres des plus prestigieux du Politique Comedy Club, constitué, rappelons-le, de Florian Philippot, BHL, Francis Lalanne, Sandrine Rousseau, Louis Ferry, Ségolène Royal, tous ceux qui envoient des lettres commandées donc à Patrick Roger.
Oui.
Et donc ce matin, on a Nicolas Dupont-Aignan qui nous interprétera ses plus grands sketchs.
Ah bah voilà, bah je vais encore avoir une lettre.
La réintégration des soignants, Zelensky de la Troisième Guerre mondiale, vive le retour de Trump et un best-of des grands complots.
Bon, donc mais les réclamations
pense,
sont
Laurie,
en cours.
Laurie, vous êtes là depuis plusieurs jours et je ne vous ai pas demandé ce que vous pensiez de cette chronique. On se souvient tous des éclats de rire de Cécile de Ménibus, plus précisément d'ailleurs, il faut bien l'avouer, lorsqu'on parlait de sexe masculin, qu'on employait le mot zizi. Bon, moi, enfin, mais vous, est-ce que je vous fais rire? Dites-moi franchement.
Je peux pas te dire que j'aime pas. Bon, on se demande où est-ce que vous allez chercher cette inspiration, hein, toujours pleine de finesse, de délicatesse. Donc par exemple hier, on en parlait, ce long passage, très long passage, très très long passage sur les prairies humides, hein, de la ministre, hein, qui ont beaucoup fait rire Patrick. Disons que vous êtes en mode Coupe du Monde, hein, bière, pizza et blagues graveleuses.
Voilà, c'est ça. On s'est mis dans ce mood-là. Merci en tout cas pour cet enthousiasme et tous ces compliments. Non, un peu de sérieux. Ouais. Aujourd'hui, c'est le retour des Restos du Cœur. Vous l'avez dit, Laurie, à 5h, car je vous écoute à 5h du matin. Depuis 30 ans maintenant, les Restos du Cœur chantent aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid, dans les zéniths de province, avant d'aller dormir dans le palace du coin. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, je suis retrouvé dans un hôtel de luxe de la Baule où étaient également logés les enfoirés qui, le lendemain, devaient chanter probablement à Nantes ou dans ces coins-là. Et je me suis retrouvé dans l'ascenseur avec l'un d'entre eux, un enfant du baby-boom aux idées humanistes. Il sortait de table après avoir consommé le menu gastronomique à 189€ et au moment où nous nous sommes retrouvés seuls dans l'ascenseur pour monter dans sa chambre à 900€ la nuitée, il a exhaler un rot aux effluves de menus gastronomiques. Et le lendemain, sur la scène du Zénith, il a chanté, les larmes aux yeux, une de ses chansons humanistes. Et cette histoire m'a beaucoup gêné. Et cette année-là, Yannick Noah, je ne sais pas si vous vous souvenez, il faisait partie des enfoirés, il a refusé de dormir dans les palaces. Il aurait pu le faire en payant à titre personnel, mais pour le symbole, il préférait dormir dans les hôtels Ibis du coin. Ouais. Et je trouve que c'est bien, c'est une question de... Ah, je retrouve plus le mot. Comment ça s'appelle ce truc que Lloris a perdu, là, vous savez. Par exemple, hier, vous avez vu les joueurs iraniens. Ils n'ont pas chanté l'hymne de leur pays pour protester, évidemment, contre le régime. Et ils ont retrouvé, justement, ce que Hugo Lloris a perdu en refusant de porter le brassard LGBT. Ah, voilà, la dignité, la dignité. Allez, je vous laisse avec les Restos du Cœur. Bonne journée. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir
froid. Dépassé de chacun pour soi. Merci Guy Carlier, de l'humour et une dose d'humeur. Ça fait beaucoup de bien le matin. Merci Guy. À demain, dans un instant, le Grand 8 avec Laurie Leclerc.
Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio est de retour.
Nous sommes le mardi 22 novembre. Bon réveil à vous. Merci de votre fidélité.
Parlons vrai.
Et le Grand 8 avec Laurie Leclerc. Rebonjour Laurie.
Rebonjour Patrick, bonjour à tous.
Allez les Bleus, c'est le grand jour pour l'équipe de France. Les bars sont prêts à accueillir les supporters. Et restez avec nous, Benjamin Glaise, à la fin de ce journal pour tout nous donner sur les enjeux sportifs.
4 jours après le drame, l'heure est aux hommages et à l'enquête après la mort de la petite Vanessa.
38e année pour les Restos du Cœur. Leur campagne débute aujourd'hui et un constat, de plus en plus de demandes.
La neige est de retour, une bonne nouvelle pour les stations de ski.
C'est le grand jour pour les Bleus, enfin grand jour en tout cas c'est le début, leur premier match du mondial face à l'Australie.
Et oui, rendez-vous ce soir à 20h avec de nombreux supporters français qui sont ravis de suivre la compétition. Ils sont à fond derrière l'équipe tricolore. Clément Arion, les bars, eux, sont prêts à les accueillir.
Amar est gérant du bar sportif Le Cop. Il a tout donné sur la déco pour le mondial.
Je vis du foot. Ma passion, c'est le foot. Là, je me suis préparé. J'ai acheté quelques drapeaux des nations et tout ça.
Chez Joe, on s'attend à une grosse soirée.
On va avoir du monde, on espère. Le temps ne me motive pas tellement. Mais bon, on espère qu'on va avoir du monde. C'est un match important quand même. La France joue. Alors, on espère avoir un bon score. Et puis voilà. Puis vive la France, vive le foot.
Lewis va supporter les Bleus à sa façon.
On va un petit peu décorer le bar avec des drapeaux, ce genre de truc. Évidemment, quand l'équipe de France va jouer, on sera à l'effigie de l'équipe de France.
La bière risque de couler à flot dans le pub anglais de John, établissement déjà bien rempli pour le match de l'Angleterre hier. Il se demande s'il a prévu assez de quantité.
Premier match pour la France, oui, on va avoir de monde, ça c'est sûr. Mais j'imagine 5 fous, ça suffit, mais oui.
France-Australie, c'est à 20h. Les champions du monde en titre sont très attendus. Pour trouver une place dans un bar qui diffuse le match, il faudra peut-être sortir un peu plus tôt du travail.
Un reportage de Clément Arion, hein, on vous dit tout donc sur ce match à la fin de ce journal.
Oui, sur la compétition sportive en tant que telle. L'insoumis Adrien Quatennens convoqué pour un plaidé coupable.
Le 13 décembre prochain, cette procédure de reconnaissance préalable de culpabilité permettra au procureur de lui proposer une peine. Adrien Quatennens pourra l'accepter ou non avant qu'elle soit étudiée par un juge. Le député de la France Insoumise est impliqué dans une affaire de violence envers son épouse. Il a reconnu une gifle il y a un peu plus d'un an.
Oui, les insoumis à l'Assemblée nationale ont déposé une nouvelle motion de censure.
C'est pour répondre au 5e 49-3 déclenché par Elisabeth Borne pour faire adopter sans vote le budget de la Sécurité sociale. Un énième passage en force inacceptable selon la députée de la France Insoumise, Mathilde Panot.
L'émotion reste très vive, hein, 4 jours après le meurtre de la petite Vanessa, 14 ans, du côté de Tonneins.
Oui, une cellule d'aide psychologique a été mise en place dans son collège pour ses camarades. Une marche blanche aura lieu vendredi en fin d'après-midi à Tonneins pour lui rendre hommage. C'est donc dans le Lot-et-Garonne. L'adolescente de 14 ans a été enlevée, violée et étranglée vendredi à la sortie de son collège par un homme de 31 ans. Le meurtrier a lui passé ses premières journées en prison où, Christine Bouillot, il a pu rencontrer ses avocats qui défendent aussi Cédric Jubilard.
Maître Alexandre Martin et Maître Emmanuel Franck ont passé la journée d'hier au centre pénitentiaire d'Agen. C'est là que depuis dimanche soir, Romain Chevrel, 31 ans, est écroué après sa mise en examen pour séquestration, viol et meurtre. Des faits qu'il a reconnus et qui, selon ses avocats, il tente désormais de comprendre. Maître Martin.
Il veut comprendre, il veut essayer de trouver des... Il veut essayer de répondre aux questions qui vont lui être posées. Il veut comprendre aussi ce qui a pu se passer. On a un homme qui a conscience de ce qui s'est passé et qui souhaite évidemment collaborer avec la justice, avec les experts.
Le meurtrier de Vanessa encourt désormais la réclusion criminelle à perpétuité, mais rien ne viendra combler la douleur immense de la famille. Cette mère, ses 2 petits frères originaires d'Espagne, tous venaient de s'installer dans la région, des gens que l'on décrivait discrets et modestes. Alors logiquement, pour les aider à financer les obsèques de l'enfant, la mairie, l'association La Mouette et le club de BMX où est licencié le petit frères de Vanessa ont lancé logiquement une cagnotte sur Internet. Céline Berguet, du club de BMX de Tonneins.
Ce sont une famille extrêmement sympathique, extrêmement gentille, mais malheureusement isolée. Donc oui, il fallait qu'on les aide à offrir une sépulture digne à leur fille.
Un vaste élan de solidarité qui dépasse largement les frontières du Lot-et-Garonne.
Et les précisions de Christine Bouillot.
Oui, et la fille dont le corps, la petite fille, le corps sera enterré a priori en Espagne. Hier, alors qu'il faisait son travail, ce drame, un contrôleur fiscal a été tué à coups de couteau.
L'homme de 43 ans a été séquestré avec l'une de ses collègues par un brocanteur de Bulcourt dans le Pas-de-Calais, qui s'est ensuite suicidé. Au lendemain de la mort de cet agent du fisc, les syndicats sont en colère. Aurélie Hercousse, secrétaire départementale de Solidaires Finances Publiques dans l'Eure, attend beaucoup de l'avenue de Gabriel Attal ce matin dans le Pas-de-Calais.
J'espère qu'il prendra conscience des difficultés que rencontrent les agents des finances publiques, et normalement des dangers qu'ils peuvent rencontrer dans l'exercice de leur mission et qu'ils proposent rapidement des solutions pour ne plus arriver à ces extrêmes. Il y a des suppressions d'emplois depuis des années, donc l'exercice de mission est de plus en plus compliqué. On demande aux agents de faire plus avec moins de moyens.
Aurélie Hercousse, jointe par Maxime Troulot, Gabriel Attal, donc, qui se rendra à Arras dans la journée.
Le brocanteur donc, qui était à bout, hein, évidemment, contrôle fiscal, il a tué le contrôleur et il a attaché l'une des collègues en fait, du contrôleur fiscal aussi. Elle a été retrouvée ligotée, évidemment choquée. Les Restos du Cœur, on le disait, c'est la 38e campagne de collecte qui commence aujourd'hui.
Et une campagne qui démarre avec un constat alarmant pour le président de l'association, Patrick Pourret. La fréquentation de ces centres est en hausse. Il n'a jamais connu une situation pareille. Marie Folliot, vous êtes allée enquêter dans une banque alimentaire et le constat est le même.
dans l'entrepôt de la banque alimentaire d'Arcueil. C'est un balai de camionnettes, plus ou moins grandes, qui viennent les unes derrière les autres récupérer des denrées alimentaires de toutes sortes pour leur association solidaire et sociale. Purée, mousseline, fruits et légumes ou encore conserves seront redistribués à des personnes en précarité de plus en plus nombreuses. Nicole Farlotti est présidente de la banque alimentaire d'Île-de-France.
À chaque crise, on a des nouveaux publics qui font appel à l'aide alimentaire et ce qu'on constate, c'est qu'une fois que la crise est terminée, la demande ne redescend pas tellement, donc l'augmentation est constante depuis 3 ans et c'est jamais revenu au niveau d'avant.
Face à l'ampleur des besoins, la ville de Clamart a remis en service le panier solidaire pour les étudiants. Dounia est la chargée jeunesse de la commune.
Au départ, ça a été par rapport à la crise du Covid. Puis ensuite, avec l'inflation, etc., on a décidé de remettre ça en place parce que ça leur faisait du bien.
Sylvain est bénévole dans une épicerie sociale et solidaire. Chaque jour, 2 ou 3 personnes en plus viennent toquer à sa porte.
Beaucoup de communautés africaines, la plupart du temps, ils fuient la misère et pensaient que c'était meilleur quoi, ici chez nous, en France. Bon, il n'y a pas la guerre, ok. En fin de compte, on se rend compte que c'est la même misère.
La banque alimentaire démarre sa campagne de collecte dans les supermarchés vendredi. Face à l'ampleur de la crise, la crainte d'une baisse des dons est plus que jamais présente.
Un reportage de Marie Folio, un Resto du Cœur qui compte sur vous donc dès aujourd'hui.
Ça y est, ça n'a échappé à personne. Le froid est arrivé.
Et les stations de ski se réjouissent de l'arrivée des tout premiers flocons. Les commerçants de la station du Grand Tourmalet dans les Hautes-Pyrénées se préparent à accueillir les futurs skieurs. Blandine Vernardet est directrice du Grand Tourmalet. Elle nous détaille les conditions à venir sur place.
On attend les premières chutes de neige un peu conséquentes, de près entre 20 à 25 cm à 1700 mètres d'altitude. Sur la prévision météo, là, donc on a cet épisode neigeux, hein, puis après ça reste perturbé sur la fin de semaine et plutôt humide. Et a priori, le vrai froid, on va dire hivernal, arriverait plutôt en début de semaine prochaine. On prévoit l'ouverture sur le premier week-end de décembre, le samedi 3.
Blandine Vernardet de la station du Grand Tourmalet au micro d'Antoine Mazère. Des chutes de neige dès 1200 mètres aujourd'hui dans les Pyrénées.
La neige qui arrive. Alors qu'au Qatar, on en arrive évidemment à notre rendez-vous autour du mondial. 25 degrés, ciel légèrement voilé pour l'entrée des Bleus dans la Coupe du Monde.
Et c'est le grand jour en effet pour l'équipe de France de football. Les Bleus qui démarrent leur mondial ce soir à 20h face à l'Australie. Benjamin Glaise, un saut dans l'inconnu pour les tricolores.
Oui, très clairement, car c'est une véritable malédiction qui s'est abattue sur les hommes de Didier Deschamps. Une avalanche de blessures, dernier forfait en date. On le sait, celui pour toute la compétition de Benzema qui sera donc remplacé par Giroud à la pointe de l'attaque. Une attaque composée à 4 ce soir pour forcer le verrou australien avec Mbappé, Dembélé et Griezmann. Mais ce matin, les inquiétudes se concentrent surtout davantage sur la défense et le milieu de terrain. Milieu de terrain inexpérimenté avec Rabiot, Tchouaméni. Et puis la défense, Varane, le vice-capitaine des Bleus, a bien repris l'entraînement mais il devrait être préservé pour ce premier match. C'est donc une défense centrale inédite que devrait aligner Didier Deschamps ce soir avec Konaté et Upamecano, 2 jeunes joueurs qui ne cumule que 9 sélections à eux deux. Pas de quoi inquiéter néanmoins le capitaine et gardien Hugo Lloris.
C'est évident qu'il est important de bien démarrer, de lancer une dynamique positive. Après, il y a une ossature dans notre équipe un peu plus expérimentée qui permettra certainement à tous ces jeunes d'être guidés. Mais ils ont le talent, ils ont la maturité. Pour la plupart, ils jouent dans les plus grands clubs. Ils connaissent les attentes à ce niveau et on affrontera l'Australie tous ensemble avec, j'espère, une issue favorable.
Et l'Australie, justement, qui, eh bien, de son côté, s'est qualifiée très péniblement pour ce mondial au prix de 2 victoires étriquées en barrage contre les Émirats Arabes Unis et le Pérou, avec des joueurs qui évoluent pour la plupart dans les championnats australiens, écossais ou japonais, mais qui auront à cœur de faire de jouer le champion en titre. En attendant le match de soir, il faudra avoir un œil sur l'autre rencontre du groupe, le Danemark qui affronte la Tunisie à 14h au programme également au Qatar, l'Argentine qui affronte l'Arabie Saoudite à 11h ce matin, et puis Mexique, Pologne à 17h.
Et un mot sur les scores d'hier. Victoire de l'Angleterre contre l'Iran 6 à 2, 2-0 des Pays-Bas contre le Sénégal et match nul des États-Unis contre le Pays de Galles, un partout.
Oui, et à retrouver aussi et à vivre dans les vraies voix du mondial à partir de 18h30 autour de Cécile Ménibus, Philippe David, 2 passionnés mais qui vous font vivre sous tous les angles, évidemment, ce mondial, que ce soit sportif et puis extra-sportif, et le match à suivre en direct aussi ce soir à partir de 20h.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger, Laurie Leclerc.
Et ce matin, beaucoup de questions effectivement du jour, par exemple autour de l'assurance chômage. Hein,
selon vous, est-ce une solution de réduire la durée de l'indemnisation? C'est une bonne idée? Dans certains cas, c'est injuste ou c'est inefficace?
Oui, et là vous êtes assez partagé. La Coupe du Monde aussi?
Oui, est-ce que vous allez regarder le match des Bleus ce soir? Oui, non, ou je ne sais pas encore.
Oui, et puis la troisième question.
Êtes-vous favorable à la réintégration des soignants non vaccinés? Oui, immédiatement, après des avis scientifiques, pas éthiques ou non?
Et je vous donnerai la réponse juste juste après la chronique d'Elisabeth Lévy. Lévy sans interdit avec Elisabeth Lévy, bonjour.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Parce que vous venez justement ce matin nous parler de cette réintégration des soignants non vaccinés, le ministre de la Santé a suspendu sa réponse à deux avis et vous nous dites que la France est l'un des derniers pays européens à refuser de réintégrer ces soignants qui ne sont pas vaccinés. Hein.
Oui, la Grèce et la Hongrie maintiennent encore cette obligation vaccinale pour les soignants. Elle a été levée en Italie le 31 octobre et en Allemagne, l'obligation est maintenue jusqu'à la fin 2022. Mais en Allemagne, ils ne sont pas suspendus, ils ont des amendes et des rappels à l'ordre. Alors en France, donc le ministre de la Santé François Braun nous dit qu'il y a très peu de médecins et seulement 1050 infirmiers sur 300 000 environ. Et d'après la Fédération hospitalière de France, ça représente 0,3% des professionnels hospitaliers, hein, soignants et non soignants, qui sont suspendus donc depuis l'automne 2021. Donc vous l'avez dit, François Braun a déclaré dimanche qu'il attendait deux avis, celui de la Haute Autorité de Santé et celui du Conseil consultatif national d'éthique. Pour tous ces deux avis devraient arriver début 2022, mais il s'est montré très fermé hein, par rapport à toute perspective de réintégration avec deux arguments, celui de la sécurité sanitaire, hein, faut-il accepter que des gens non protégés soient au contact des plus fragiles alors qu'on meurt encore du Covid, hein, c'est ça qu'il a déclaré en substance, et le deuxième argument c'est celui de l'éthique professionnelle, il s'abrite derrière les soignants vaccinés qui refuseraient le retour de leurs collègues qui n'étaient pas là quand on avait besoin d'eux. Ben oui, non, ils n'étaient pas là et pour cause.
Hein. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que ces deux arguments peuvent s'entendre ou non ?
Ah ben non. Non, pas du tout, je ne crois pas. Hein. D'abord, l'argument de santé publique, là, il commence à devenir énervant parce qu'il est vraiment mensonger, comme d'ailleurs toute la campagne du gouvernement sur le thème « Vaccinez-vous, protégez votre grand-mère ». Bien sûr, cher Patrick, c'était légitime au début quand on pensait que le vaccin protégeait contre la transmission, hein, qu'il empêchait la contagion. Et on sait depuis longtemps qu'il n'en est rien. Il protège contre les formes graves, ce qui n'est pas rien, mais il protège pas les autres. Et pourtant, le canard sans tête hein, continue à courir et on continue à nous expliquer, à faire comme si ce vaccin empêchait la contagion. Quant à l'éthique, l'argument de l'éthique professionnelle, eh bien, ces gens n'ont pas déserté, on leur a interdit de travailler. Donc, en l'occurrence, il ne s'agit plus de raison, comme ça devrait être le cas, il s'agit de quasi-religion, comme si le plus important pour le gouvernement, c'était de ne pas admettre qu'il s'est trompé. Ce que d'ailleurs on ne va pas lui reprocher puisqu'il n'avait pas les informations suffisantes au départ. Le problème c'est de persévérer dans l'erreur. Alors personnellement je dois vous le dire, je comprends mal la défiance par rapport au vaccin mais c'est vrai, on ne peut pas nier non plus que beaucoup d'effets secondaires ont été recensés et si le vaccin ne protège que contre les formes graves, on ne voit pas bien pourquoi il faudrait obliger des gens qui ne risquent pas d'attraper ces formes graves à se vacciner. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de médecins qui ne veulent pas vacciner leurs enfants. Et par ailleurs, le traitement de ces soignants qui ont été suspendus n'est pas licencié, relève vraiment du chantage moral. Quand ils travaillent à l'hôpital public, ils n'ont pas le chômage, ils n'ont pas le RSA et ils ne peuvent même pas travailler ailleurs, sauf à démissionner définitivement. En réalité, on veut les punir pour leur indocilité. Il n'y a plus de rationalité à tout ça. Alors, pardon pour l'expression, hein, c'est injuste et c'est dégueulasse.
Merci Elisabeth Lévy. Vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Vous pouvez nous appeler et réagir. Nous prendrons vos appels avec Manu tout à l'heure au standard 0826 300 300. Dans un instant, l'invité politique, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui sera avec nous. Il est 8h15.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger.
Et l'invité ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France.
Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
Bonjour Patrick Roger.
La diminution des indemnités chômage, les soignants non vaccinés, le nouveau 49-3, la flambée des prix, le droit à l'IVG dans la Constitution ou pas, les maires avec leur salon, les bleus au Mondial du Qatar, quelques-unes des questions que l'on va évoquer. Commençons par Elisabeth Borne, donc, qui annonce de nouveau et qui utilise le 49-3 hein, pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale. Ça vous choque ou ça permet d'avancer ?
Ça me choque pour une raison très simple, c'est que c'est le sixième ou le cinquième, je sais plus.
Oui,
et surtout, ce qui est très nouveau et ce qui ne s'était jamais fait sous la Ve République, c'est qu'ils annoncent, alors pas sur la sécurité sociale, mais sur les lois de finances, ils annoncent le 49-3 avant même qu'on ait traité les différents articles. C'est-à-dire que dans sous la Ve République, sous Michel Rocard, sous d'autres, il y a eu beaucoup de 49-3.
Oui.
Mais on laissait la discussion, les amendements, les débats,
oui.
et à la fin. Tandis que là, c'est dès le début. Par exemple, sur le budget, on a examiné que 5 budgets sur 46. Donc vous imaginez que c'est impensable de fonctionner comme ça. Enfin, c'est la fin de la démocratie totalement, c'est-à-dire qu'il n'y a
oui,
plus aucun de démocratie.
Ça a l'air d'être compliqué, vous êtes député
mais c'est
depuis
compliqué
des
quoi,
années,
la
vous voyez ça aussi. Non mais, vous voyez ça à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça les choses ne se sont pas complexifiées,
mais non,
les
sont...
débats ou pas
ah, non,
mais je vous pose la question.
Elles
ne
sont
Nicolas
pas complexifiées. Les Français,
oui.
après avoir élu malheureusement Emmanuel Macron, ont eu un sursaut de lucidité, et ont dit, on ne veut pas lui donner de majorité parce qu'on veut qu'il y ait des compromis. Ils n'ont pas la majorité. On peut avoir des compromis. Enfin, je vais vous donner un exemple.
Ils l'ont, mais...
Non, ils n'ont pas. Ils ont une majorité relative. Ils sont en minorité oui. sur beaucoup de textes. Ils ne peuvent pas faire voter leur texte.
Ouais.
Au lieu d'en tirer les conséquences et de se dire, tiens, on va discuter vraiment. Je vais vous donner un exemple très précis. On a voté, les oppositions, 12 milliards de crédits pour aider les Français à rénover leur logement, les fenêtres, etc.
Oui, oui.
Ce qui était la priorité du gouvernement. Donc on ne dit pas, on ne fait pas ce que veut le gouvernement. Et comme ce n'était pas le montant que voulait Mme Borne, 49-3. Donc si vous voulez, vous seriez en Allemagne, vous seriez en Suède, vous seriez dans n'importe où, aux États-Unis. Le gouvernement accepte de discuter avec les parlementaires. Là, ils ne l'acceptent pas. Alors ils ont le 49-3.
Mais alors c'est quoi,
ils ont le 49-3 pour les lois de finances et lois de finances sociales.
Ouais.
Mais ils n'ont qu'un 49-3 pour les autres projets de loi par an.
Oui.
Donc, ils vont bien arriver à un moment, à un blocage, c'est-à-dire, est-ce qu'un jour le gouvernement veut entendre les oppositions parce que les Français nous ont donné un pouvoir de blocage.
Oui, mais les oppositions ne sont pas forcément sur le même avis. Même si, par exemple, sur
mais
la rénovation...
parfois, on est sur le même
alors
avis.
Alors voilà, c'est ça. Vous pouvez voter des textes avec la France Insoumise,
mais
Nicolas
Dupont-Aignan. Quand le texte va dans le bon sens, regardez la rénovation thermique.
Oui.
Un autre point, les voies ferrées.
Donc, mais
vous savez qu'on a un retard d'investissement, mais je vais être concret pour les Français.
Oui, on a
un retard d'investissement en matière de voies ferrées. Il y a eu un amendement, je crois, d'un groupe des territoires centristes qui proposait 3 milliards d'euros pour rénover nos voies ferrées. C'est bien sur tous les sujets. Ça a été voté. Le gouvernement le refuse. La taxe sur les superprofits des pétroliers qui abusent de la hausse des prix, ça a été voté. La ristourne de 18 centimes qui a permis d'alléger la peine des Français, mais qui est stoppée aujourd'hui, ça a été voté.
Donc
on ne dise pas, comme le fait la propagande du gouvernement, qu'on n'est pas capable de s'entendre pour l'intérêt de la France.
Ouais. Donc, il y a une motion de censure déposée par l'ANUPS, par LFI.
Oui.
Donc, vous êtes prêt à voter
Je vote toutes les motions de censure, car ce qui est important, ce n'est pas d'où elles viennent. Je serais ravi que les LR, les Républicains, moi, Debout la France, nous ne sommes pas assez nombreux pour en déposer une, mais je serais ravi que les Républicains en déposent une. Pourquoi ne déposent-ils pas une motion de censure? Parce que je vais aller un peu plus loin.
Allez-y.
Si on considère qu'il y a blocage... Ça veut dire que les Français doivent trancher. Comment peut-on dire, comme le font les LR, que c'est le gouvernement le pire du monde, qu'il met en danger la sécurité, qu'il ne prend pas des mesures contre les gaspillages, que je pense, qu'il n'aide pas nos PME, qu'il ne prend pas les mesures qu'il faut contre, par exemple, la fraude à la carte vitale, et puis au moment où il y a une motion de censure... Il n'y a plus personne.
Donc
ça veut dire qu'en fait, ils sont la béquille du gouvernement.
Oui, les LR sont la béquille du gouvernement.
Malheureusement.
Alors, ils sont en train d'élire leur président, là, entre Ciotti, Retailleau et Pradier. Vous, si vous deviez voter, voteriez pour qui?
Oh là, je me mêle plus de mon ancienne famille. Je vais vous dire le problème des LR.
Elle peut se reconstruire quand même ou pas?
Mais je le souhaite pour eux, parce que moi, je n'ai jamais voulu de mal à mes anciens camarades, dans la mesure où j'ai eu un désaccord fondamental sur l'Europe et sur le décalage des LR entre les discours qui sont souvent très raisonnables et très bien, et la pratique qui est totalement inverse quand ils étaient au pouvoir. Donc, moi, ce que je demande aux LR, c'est de mettre en accord leur pratique et leur discours. D'ailleurs, on le voit, je vous parlais de la motion de censure, ils passent leur vie à critiquer le gouvernement, mais quand il s'agit de voter la motion de censure, il n'y a plus personne. Ils passent leur vie à dire que Bruxelles ne va pas. J'ai vu une partie du débat, j'ai pas tout vu hier. C'était formidable. Ils pourraient adhérer à Debout la France. Souveraineté, gaullisme, mais c'était formidable.
Donc
mais ils ont signé... Non mais attendez. Ils ont signé tous les accords européens qui ont détruit la souveraineté. Donc ce que je demande aux LR... c'est de mettre en accord leurs pratiques et leurs discours. Et s'il y a autant de LR qui adhèrent à Debout la France, c'est bien parce qu'ils retrouvent chez moi, dans le parti que j'ai l'honneur de présider, une certaine idée du gaullisme.
Oui.
Et moi, ce que je souhaite pour l'avenir, c'est que les LR ne servent pas de roue de secours à la destruction du pays d'Emmanuel Macron.
On ne va pas passer notre temps à parler des LR, mais d'un mot quand même, il y avait plané l'absence ou la présence, entre guillemets, de Laurent Wauquiez autour de ces débats. Vous pensez que c'est Laurent Wauquiez qui sera mis en orbite si, par exemple, Ciotti est élu ou pas?
J'en sais rien.
Et ce serait, écoutez, ce
je suis pas là pour commenter les LR, sais rien.
Oui.
Moi, je vais vous dire, ce que je défends debout la France, je propose une union. J'ai toujours dit au LR qu'il fallait s'entendre avec le Rassemblement National, avec les patriotes de droite comme de gauche, que le pays est en train de crever, que les Français souffrent et que je demande l'union.
Oui.
L'union, parce que je veux qu'on gagne.
Oui.
Et je pense sincèrement qu'il y a moins de différence entre un LR, un Rassemblement National, un Debout la France, qu'entre les NUPES, qu'entre M. Berlusconi et Mme Meloni en Italie. Et je constate qu'en Suède et en Italie, quand les gens s'unissent, ils gagnent.
Ouais.
Et je ne comprends pas pourquoi nous avons la droite la plus con du monde qui, excusez-moi, est incapable de voir l'intérêt du pays avant ces petites histoires partisanes.
Nicolas Dupont-Aignan, quelques questions assez précises. Est-ce qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés ou attendre les avis des deux comités début janvier, comme l'a dit François
Braun? J'ai fait une proposition de loi.
Oui.
C'est la plus grande injustice des dernières années qu'il y ait. Vous savez, vous avez des femmes et des hommes, des milliers, qui sont sans salaire.
Ouais. Aujourd'hui, on dit que c'est un millier d'infirmiers.
C'est faux. Complètement faux.
C'est faux? Ah bon?
Complètement faux. On est à plus de 15 000. Ouais. Complètement faux.
Ah non, mais il y en a certains qui ont quitté aussi la profession.
Mais écoutez.
Non, mais bon.
Les services ne fonctionnent pas.
Oui.
Les opérations sont repoussées parce qu'on manque d'infirmiers. Je connais par exemple une infirmière réanimatrice, anesthésiste, qui est chez elle, et qui n'a même pas le RSA. Parce que on l'a traitée comme un chien. Eh bien, il faut bien sûr les réintégrer. On sait aujourd'hui ce que je n'ai cessé de dire, et on m'a aussi maltraité, que le vaccin n'empêche pas la transmission, que le président Macron et son gouvernement ont menti aux Français. On sait qu'il y a des effets secondaires graves des vaccins. Bref, c'était l'escroquerie de la période Covid, et le gouvernement continue à priver les Français de professionnels sérieux qui ne demandent qu'à travailler.
Bon, donc vous dites qu'il faut les réintégrer.
Mais tout de suite.
La diminution des indemnités chômage, il y a une baisse de 25% de la durée. Qu'est-ce que vous pensez de ce dispositif? Ce sera modulé en fonction du taux de chômage, hein, s'il se situe en deçà de 9%.
Je suis très partagé.
Oui.
Il y a un bon côté parce qu'on sait qu'il y a des abus. Mais moi, je suis très inquiet sur les plus de 50 ans. Car je remarque que n'en déplaise au gouvernement et malheureusement au MEDEF, vous avez des gens au-delà de 55 ans, là aussi vous êtes mis sur le côté de la société. Et cette mesure, pour les plus de 55 ans, va avoir des effets sociaux dramatiques. Donc, cette mesure en soi, elle peut s'expliquer parce qu'il y a parfois des abus, notamment des ruptures à l'amiable, où les gens font une rupture à l'amiable pour profiter du chômage pendant 2 ans, etc.
Ou pour opérer une reconversion, hein, pour certains.
Ce qui à ce moment-là est positif et elle est aidée par l'État.
Ouais.
Donc je me méfie, moi, de cette mesure qui peut donner lieu à des drames sociaux au-dessus de 55 ans, et j'aurais aimé au moins que pour les plus de 50 ans, on les protège. Parce que je peux vous dire, j'en connais, des informaticiens, des gens qui veulent travailler.
Ouais.
On les jette à partir de 55 ans et on leur dit, vous aurez votre retraite qu'à 65. Mais comment ils vont faire?
Un mot aussi, carburant énergie avec des factures qui explosent. Le gouvernement planche sur une nouvelle indemnité. Quelles seraient vos propositions, vous?
C'est très simple. D'un côté, l'Allemagne, c'est ça le drame, va mettre 200 milliards d'euros sur la table pour aider ses entreprises. De l'autre, la France a prévu 10 milliards. J'ai rencontré au salon du Made in France beaucoup d'artisans, de chefs d'entreprise au-dessus de 10 salariés. Et même quand ils ont moins de 10 salariés, un boulanger qui a un compteur particulier, il n'a pas le bouclier. Ce sont des doublements, triplements, quadruplements de la facture. Vous allez avoir un désastre économique si on ne change pas les aides.
Les
nouvelles aides sont encore beaucoup trop compliquées, beaucoup trop insuffisantes. Ça veut dire des centaines de milliers de chômeurs à la fin de l'hiver. Donc, je vous le dis, il faut changer de braquet. Et il y a une mesure très simple que je propose. Vous savez, les PGE. Le gouvernement refuse de les étaler. Parce que Bruxelles l'interdit. Mais Bruxelles n'a pas interdit, monsieur le chancelier allemand, de mettre 200 milliards de concurrence déloyale. Donc, je propose qu'on étale les PGE pour donner une bouffée d'oxygène à toutes nos PME. Et je propose un bouclier énergétique sur, bien évidemment, le gaz et l'électricité, mais pour que ça coûte pas trop cher.
Et les carburants aussi.
Attendez, pour que ça coûte pas trop cher sur l'électricité, je propose de revenir au prix national, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal.
D'accord.
Sans prix européen, c'est la seule solution pour s'en sortir.
Oui, l'avortement. Le Rassemblement national propose d'inscrire la loi Veil dans la Constitution pour couper court. Oui, c'est Marine Le Pen qui dépose un amendement pour constitutionnaliser les acquis de la loi Veil et pas le droit, en fait, à l'IVG. Ah. Elle dit évidemment qu'il y a une nuance. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ?
Cette nuance est très importante. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que personne ne remet en cause le droit à l'avortement. Le débat qui se pose, c'est la durée, c'est-à-dire le nombre de semaines. Et c'est ce débat aux États-Unis qui est dissimulé. Et le mérite de la loi Veil, c'est qu'elle pose des limites. Et donc, je suis totalement d'accord avec cette proposition. Il faut inscrire la loi Veil, mais pas le droit général. Parce que si vous inscrivez le droit général, on passera de 14 semaines à 20 semaines, à 22 semaines, à 26 semaines, ce qui est inacceptable. Oui. Donc ça doit rester dans l'esprit de la loi Veil, dans l'esprit de la loi Veil, quelque chose d'exceptionnel.
Vous soutenez Marine Le Pen.
Là, je soutiens une proposition de bon sens.
Oui, de bon sens.
Pour éviter, parce que le gouvernement et la majorité cherchent à piéger.
Oui.
Ils cherchent à vous faire dire, soit vous êtes pour le droit à la... avortement, et vous devez voter la constitutionnalisation de n'importe quoi, c'est-à-dire jusqu'à un nombre de semaines qui n'est pas défini, soit vous êtes contre et vous êtes un réactionnaire. Ouais. Eh bien, entre les deux, il y a la loi Veil, c'est tout.
Bon, d'un mot, parce que je sais que vous êtes un défenseur du bien-être animal. Quelle est votre position sur la corrida ?
Oh, ma position, on la connaît. Je pense que c'est un spectacle barbare. Tout le monde le sait.
Ouais.
Pour autant, je n'accepte pas la démagogie de cette proposition de loi, je vais vous dire pourquoi.
Ouais.
Parce que il y a à peu près 200 taureaux par an, et c'est trop peut-être. Mais au même moment, Monsieur Caron et les filles ne veulent pas toucher à l'absence d'étourdissement pour des centaines de milliers de
bêtes qui
de
vont
bêtes dans
à
les abattoirs.
Ouais.
Donc moi, je voterai quand il y aura un projet global, c'est-à-dire obligation de l'étourdissement et corrida en même temps. Mais je ne vois pas pourquoi il y a deux poids deux mesures. Donc, et je pense très sincèrement aussi que la priorité, c'est l'affaire de l'étourdissement, c'est-à-dire l'absence d'étourdissement pour les cultes, et la corrida est en train de s'éteindre. Donc, je trouve que les LFI est en train de faire de la politique aïrie sur le bien-être animal. C'est pas plus mal, mais on peut aller beaucoup plus
Nicolas
loin.
Nicolas Dupont-Aignan, il nous reste une minute pour deux questions. Pardon, désolé, mais
allez-y.
Est-ce que Adrien Quatennens, il va plaider coupable, etc. Est-ce qu'il peut revenir d'une manière ou d'une autre en attendant à l'Assemblée nationale dans son affaire?
C'est sa responsabilité, c'est aux électeurs de le juger à la prochaine élection. Voilà. Ouais. S'il avait du courage, il se représentait devant ses électeurs.
Ouais.
Maintenant, c'est sa responsabilité. Bon, voilà. Je suis pas juge.
Vous allez
même si
vous regarder la Coupe du Monde de football au Qatar?
Je vais regarder comme tout le monde.
Ah bon, vous regardez, oui.
Arrêtons cette hypocrisie.
Non,
moi, je vais vous dire, je n'ai jamais été un ami du Qatar et je n'aurais pas donné la Coupe du Monde au Qatar. Parce que, pour plein de raisons. Maintenant, ils l'ont. Et c'est un peu facile, une fois qu'on l'a donné, de jouer les... c'est horrible, mais là, pourquoi on l'a donné ? Et je pense qu'il faut comprendre aussi que tous les pays du monde ont le droit à avoir des Coupes du Monde, à condition de respecter certains droits. On aurait dû les faire respecter.
Ouais.
Maintenant que c'est parti, d'ailleurs, je remarque que nous sommes un des seuls pays qui a ce débat. Maintenant que c'est parti,
Bon, vous avez vu que les équipes européennes qui voulaient jouer avec un brassard là en faveur de l'inclusion et contre les discriminations ne pourront pas le faire. La FIFA l'a interdit.
Mais la FIFA fait respecter les règles du sport.
D'accord.
On peut pas, il y a un moment, il faut arrêter.
On ne peut pas politiser le sport.
Il faut arrêter
de
tout politiser, ça ne s'arrête jamais.
Ouais. Oh bah tiens, vous parlez comme
revanche,
Emmanuel Macron, dites donc.
Oui, mais là, je suis d'accord. En revanche, il faut prendre ses responsabilités avant.
Ouais.
Quelle incohérence.
Ouais.
On la donne et après on veut la retirer.
Ouais. Merci Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France.
Merci.
On aurait pu parler aussi du Salon des maires qui s'ouvre aujourd'hui.
Je vais aller les voir. Les maires des petites communes souffrent énormément.
Oui.
Il
n'y
a pas de bouclier énergétique.
Oui.
Il
n'y
a pas de bouclier. Les petites communes rurales sont asphyxiées, il faut les défendre.
Ouais.
Ça coûterait rien du tout de changer la clé de répartition pour sauver nos communes rurales.
Merci Nicolas Dupont-Aignan. Il est 8h34 sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger.
Il est 8h37, hashtag on en parle des enfants à la table du Conseil des ministres, Benjamin Glaise. C'est la scène qu'on a pu découvrir hier à Matignon. Hein.
Oui, effectivement, une vingtaine d'enfants âgés de 8 à 17 ans qui ont été invités à plancher sur différents sujets. Parmi les thèmes abordés, l'environnement, l'école, le handicap ou encore l'accès à la culture et au sport. Ils ont ensuite partagé le fruit de leurs travaux devant les membres du gouvernement, tous rassemblés, comme ce jeune qui est revenu, lui, sur le choix du Qatar pour accueillir la Coupe du Monde, notamment avec ses conséquences pour l'écologie.
Il dit de ne pas polluer la planète, sauf que le terrain de foot, il pollue énormément. Ils ont mis la clim et tout. Et moi, si je serais ministre, et maintenant c'est trop tard parce que ça a commencé. J'aurais dit que reporter les matchs jusqu'en 2023 pour que les matchs soient autre part que ici.
Voilà, cet enfant qui est donc proposé carrément de décaler la Coupe du Monde, le temps de trouver un autre pays hôte. Bon, même si c'est trop tard, reconnaît-il avec les rires on a entendus à côté. En tout cas, face à ces jeunes, eh bien, les ministres ont bien veillé devant les caméras à prendre en note toutes les suggestions de ces jeunes. Puis c'est Elisabeth Borne qui a conclu les débats.
Merci pour vos témoignages et pour vos propositions. J'espère que vous aurez appris des choses utiles. Ça vous donne aussi envie de vous engager.
Alors du côté des réseaux sociaux, certains ne sont pas dupes, beaucoup critiquent un coup de com' de la part du gouvernement. D'autres ont bien remarqué que la première ministre vapotait pas mal devant les enfants. Quel exemple peut-on lire sur Twitter ? Elle n'a pas mieux à faire, lance quant à lui un internaute qui ne semble pas convaincu par ce rendez-vous. Un rendez-vous qui n'est pas une première, puisqu'un premier conseil des ministres des enfants avait déjà été organisé, c'était en 2017.
Oui, c'est vrai. Allez, on lit les journaux. C'est aujourd'hui le début du 104e congrès des maires de France, des élus locaux, plus que jamais sous pression.
Oui, en témoigne la une, pour commencer, de la montagne avec ce titre simple, combat de maires, des élus au bout du rouleau, comme le souligne également l'Est républicain. Ils avaient d'ailleurs manifesté hier devant la préfecture de Nancy, et ce pour faire entendre leur désarroi. Coût de l'énergie, point d'indice des agents, inflation. Les maires s'interrogent sur leur capacité à agir face aux crises, encore plus donc aujourd'hui. Ouest France en fait également sa une sur l'angle des économies d'énergie, car là aussi les édiles sous son pression, partout ou presque, les calculatrices s'affolent. Face à la hausse parfois vertigineuse des prix de l'énergie, les élus doivent rivaliser d'inventivité. Ce sera d'ailleurs l'un des sujets majeurs abordés au cours du congrès des maires de cette année. Donc.
Oui, alors c'est une phrase aussi du ministre de la Santé qui fait beaucoup réagir depuis dimanche. Il y a un problème éthique à réintégrer les soignants non vaccinés. Var matin, on fait ça une. Faut-il les réintégrer ?
Oui, la question qui revient toujours. La haute autorité de santé qui rendra, elle, son avis en début d'année, rappelle Var matin avec ce chiffre en première page, seuls 0,3% des professionnels sont concernés. Alors médecins anti-vax, pourquoi l'omerta, se demande pour sa part le bien public. Les médecins concernés en Côte d'Or sont échaudés par la situation. Le bien public qui précise qu'aucun n'a souhaité prendre la parole, même anonymement. Et dans ce contexte, les soignants sont débordés par l'épidémie de bronchiolite. On est en permanence dans le rush, témoignage à lire dans Libération depuis le service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Robert Debré à Paris. Malgré la fatigue, écrit Libé, ses soignants redoutent une deuxième flambée des cas d'ici la fin du mois.
Ah oui, merci Benjamin. Dernier mot, France-Australie ce soir 20h, beaucoup de journaux en parlent. Le Parisien aujourd'hui en France notamment.
Oui, ouais. Avec ce titre, on compte sur vous, avec en une Griezmann, Mbappé, Giroud, Tchouaméni, avec cette anecdote, notamment depuis 1962, le Brésil est le seul champion du monde à avoir réussi à conserver son titre dans l'histoire. Ils sont deux à avoir fait cela, le Brésil et puis avant cela l'Italie. Le monde est à eux, ça c'est le titre de la Provence, rêver d'un autre monde cette fois-ci pour l'équipe, les champions du monde qui doivent réussir leur entrée dans la compétition, nous indique le quotidien sportif. Il ne faudra pas se louper face à l'Australie.
Oui, c'est ça, à partir de 20h à suivre en direct évidemment sur Sud Radio. Nous poursuivons notre Tour de France. Vincent Coste, reporter régional à Midi Libre, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Avec en une un vote à l'Assemblée autour de Midi Libre, c'est ça ? Racontez-nous.
Oui, tout à fait. Donc nous revenons aujourd'hui, nous anticipons plutôt la journée de jeudi, puisque la France Insoumise, dans le cadre de sa niche parlementaire, va déposer le député Émeric Caron va déposer pour le groupe La France Insoumise une proposition de loi visant à interdire la corrida. Oui. C'est la première fois qu'une telle proposition de loi arrive devant les députés, devant la représentation nationale, pour être discutée et voter. Ouais. Donc nous avons effectivement décidé de consacrer cette semaine plusieurs articles à ce sujet, et nous reviendrons évidemment sur la journée de jeudi dans nos éditions de vendredi et du week-end. Mais nous avons à la une aujourd'hui, corrida, le coup de grâce, avec un point d'interrogation, et surtout nous avons à l'intérieur du journal et sur notre site midilibre.fr le compte rendu du débat que nous avons organisé hier.
Ouais.
Dans nos locaux, ouais, au siège du journal, avec trois pro-corrida, trois anti-corrida. Il y avait un éleveur de taureaux, il y avait deux élus, deux députés, un de la France Insoumise, un de Renaissance, un pro, un anti, des militants associatifs, qui ont débattu de la corrida, de sa pertinence, de ce qu'elle représentait aussi en termes économiques, environnementaux, écologiques, culturel, au niveau de la tradition en France et surtout dans nos
dans toutes les régions. Bah oui, dans les villes taurines. Oui, bien sûr.
Dans nos territoires, dans les villes taurines, il y a trois régions administratives, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie qui sont concernées, une douzaine de départements. Ouais. Et puis sur la zone de diffusion de Midi Libre, évidemment, les grandes villes taurines que sont Béziers, Nîmes notamment, Arles chez les voisins des Bouches-du-Rhône, il y a Arles également. Ouais. Évidemment, c'est un sujet, c'est un débat très sensible dans nos territoires.
Et qui remue évidemment beaucoup de choses. Hein, et pas seulement autour de la corrida. Il y a tradition, il y a un tas de choses. Merci beaucoup Vincent Cosse, c'est à lire dans Midi Libre aujourd'hui, mais également les jours à venir. Évidemment, ça va continuer autour de ces comptes rendus et ces débats. Dans un instant, les débats, Éric Revel, Lydia Guirous. Il est 8h44 sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger.
Il y a plusieurs questions sur la table ce matin à 9h moins le quart sur Sud Radio et on continuera d'en débattre d'ailleurs dans Mettez-vous d'accord avec Valérie Expert tout à l'heure. La Coupe du Monde de football par exemple, est-ce que vous allez regarder le match des Bleus ou pas, ou est-ce que vous allez boycotter? Alors bon, Dupont-Aignan qui était là tout à l'heure disait bon, maintenant il faut arrêter d'être hypocrite, ça a été attribué, donc on peut parler de la condition dans certains pays, mais on regarde. Bon, il y a aussi la réintégration ou pas des soignants non vaccinés, après la petite phrase du ministre dimanche. Et puis l'assurance chômage. Hein. Est-ce que c'est une solution de réduire la durée de l'indemnisation de 25% en fait, la durée? Éric Revel est avec nous, il a fait son édito ce matin. Lydia Guirous aussi, ils ne sont pas forcément d'accord précisément sur tout le sujet. Et Vincent qui est au 0826 300 300. Bonjour Vincent.
C'est moi, c'est Martial.
C'est Mathieu. C'est Mathieu. C'est Mathieu ou c'est Vincent? C'est Vincent. Oui. Ah, attendez, alors il y a un petit problème. Vincent ne nous entend plus. On va régler ça dans un instant avec vous au 0826 300 300. Vous pouvez continuer de réagir. Hein. Appelez-nous. Lydia Guirous, politiquement, on a souvent entendu la droite dire « Ah oui, il faut réduire les allocations chômage parce que on doit vivre avant tout du travail ou pas. » Alors, est-ce que vous êtes choqué ou pas par ça?
Évidemment, il faut vivre plus du travail. Évidemment, il faut qu'il y ait une différence entre celui qui se lève le matin pour aller travailler et celui qui préfère rester à la maison et qui peut accumuler comme ça des aides et des allocations. Mais je crois qu'il y a déjà eu quand même une réduction. Il y a eu une réforme qui a accéléré la dégressivité des allocations. La baisser de 25%, je trouve que ça va un petit peu trop vite. Et je rappelle quand même que les allocations chômage, les salariés cotisent pour y avoir droit, et c'est un temps qui permet aussi de retrouver un nouveau travail sans se retrouver dans une situation financière extrêmement
difficile.
Bon, vous êtes partagé,
mitigé, Lydia Guirous. D'habitude, je vous connais plus tranchante.
Oui,
quoi.
Oui, parce que effectivement, il faut réformer, il faut pousser les gens à aller vers le travail, mais est-ce qu'il faut tout détricoter? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un côté très très libéral et qu'on se sert du manque, d'une envie de flemme des Français, ouais, comme l'appellent certains journalistes, pour casser notre système.
Le goût d'effort. Éric Revel.
Si vous voulez, il y a quand même un constat économique qu'on peut faire. C'est qu'il y a une trentaine de secteurs économiques en France qui sont en tension de main-d'œuvre.
Ouais.
Bon. Alors, quand le gouvernement, dans la loi de Gérald Darmanin, la nouvelle loi immigration, parle d'un d'un passeport spécifique pour les immigrés, pour pourvoir à des jobs qui sont pas pourvus aujourd'hui, on dit bon, on ouvre la porte à l'immigration. Bon, quand on demande, quand on essaie de modifier l'assurance chômage pour pousser, oui, certains à travailler, on dit bon, c'est trop libéral, Linda Guérous. Bon, voilà. Mais enfin, il y a quand même un souci.
Il y a quand même un souci, c'est que ces métiers en tension sont aussi des métiers dans lesquels il faut peut-être réformer un petit peu. Je veux dire, dans la restauration, les conditions de travail, elles sont extrêmement difficiles.
Alors, au lieu d'améliorer,
je parle du salaire et je parle des conditions. Ce sont des gens qui travaillent la nuit, ce sont des gens qui travaillent parfois le week-end.
Ah, bah, bien sûr.
Au lieu d'essayer d'améliorer un petit peu ces conditions, d'améliorer les salaires, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, bah, faire venir de la main-d'œuvre étrangère, et en fait, on maintient dans le bas, au lieu de faire progresser les conditions de travail de ces salariés.
Il y a quand même deux sujets, à mon avis, qui sont alarmants avec cette réforme. Un, c'est la question de ceux qui ont plus de 55 ans, qui en général sont éjectés des entreprises.
Plus de 50 ans même.
Plus de 50 ans. Donc, en réalité, si vous raccourcissez la période d'indemnisation, ça équivaut quand même en volume à ôter 25% des indemnités qui étaient touchables par le chômeur. Ça veut dire que quand vous avez plus de 50 ans, que vous partez au chômage, qu'on réduit la période d'indemnisation, bah derrière, vous ne retrouvez pas plus d'emplois, parce qu'à la fin de votre période d'indemnisation, vous êtes plus vieux. Bon, alors ça, c'est un premier sujet, c'est l'employabilité des seniors. Et puis, deuxième sujet quand même, je le disais ce matin, Patrick, c'est que, très bien, mais on ne peut pas interchanger non plus aussi facilement qu'on le croit les gens. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un certain secteur, si vous n'avez pas une formation pour récupérer un job dans un autre secteur...
Et à quel niveau de rémunération
aussi?
Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas forcément au même niveau de rémunération à 25 ans et à 48, à 52...
Alors, il y a quand même quelque chose qui va, à mon sens, qui est quand même positive dans cette réforme, parce qu'on l'oublie souvent, et malheureusement les 35 heures ont gommé cet aspect-là, les passages aux 35 heures, c'est que le travail, c'est aussi un lien d'intégration sociale. Vous savez, on voit bien dans des familles où le père ou la mère sont au chômage et où les enfants n'ont vu que toute leur vie, leurs parents ont resté à la maison, ben, ils sont dans une situation souvent sociale, psychologique face au travail, qui est en cline à reproduire ce qu'ils ont vécu pendant des années chez eux. Donc le travail, c'est aussi cette dimension-là, Patrick Roger.
0-826-300-300, Vincent est avec nous, on l'a retrouvé dans l'Hérault. Bonjour mon cher Vincent.
Bonjour.
Bon, quelle est votre position, vous? Est-ce que c'est une solution de réduire cette durée de l'indemnisation?
Disons, je ne pense pas, parce que ça, c'est juste l'État qui veut que ça tombe après sur les collectivités au local, quand les gens n'auront plus le droit au chômage, ils seront au RSA. Donc voilà. Et puis, comme dit votre invité là, ou votre chroniqueuse, c'est sûr que de dire oui, mais on fait entrer des migrants pour faire les travaux que les Français ne veulent pas, à chaque fois qu'on en voit, c'est des patrons qui sont pas, ils prennent des gens au noir et ils baissent les salaires, quoi. Donc c'est pas en faisant ça que les Français auront plus de travail, et surtout qu'on est en situation de crise. Je pense qu'il faut augmenter les salaires pour ça, baisser les charges un peu, parce que c'est vrai que quand je vois les charges que le patron paye, c'est impressionnant, quoi.
Mais ce sont les vases communicants, quoi. C'est-à-dire que on maintient des charges élevées pour pouvoir indemniser aussi derrière, quoi, mon cher Vincent.
Mais bon, le problème qu'il y a, c'est que quand vous voyez qu'un ouvrier français, combien ça coûte par rapport à un ouvrier d'un autre pays à cause des charges. Et en plus, l'ouvrier français, il crée un salaire qui lui permet tout juste de vivre, quoi.
C'est vrai.
Le problème, l'État est trop gourmand, l'État veut faire venir de la main-d'œuvre, enfin, l'État ou le patronat, bon, ils sont ensemble, je pense, veut faire venir de la main-d'œuvre pas chère, bien malléable, et en nous accusant de dire, mais vous voulez pas le faire, oui, mais peut-être qu'il faudrait payer un peu plus, qu'on puisse vivre. Moi, pour le moment, je travaille, parce que je suis chômeur, en fait. Je suis en intérim, mais je suis toujours inscrit au chômage. Parce qu'il y a des périodes en intérim où on ne travaille pas trop. Bon, pour le moment,
c'est-à-dire que quand vous travaillez, vous conservez des droits, vous les reportez pour la suite,
Je reporte mes droits, oui, parce que le travail en ce moment, le travail dans les TP, rien qu'avec le prix du gasoil comme il avait augmenté, les camions ne tournaient plus.
Non, mais ça c'est...
Les gens ne voulaient plus...
Mais il y a du travail quand même dans ce secteur. Il y a du travail, mon cher Vincent, non?
Il y a du travail quand même, oui, j'avoue qu'il y a du travail, oui. Après, c'est pas, comme je dis, c'est bon. Moi, j'ai la chance, il est assez régulier, mais Il y a beaucoup de gens que je connais, il n'est pas si régulier que ça, quoi.
Mais c'est vrai que derrière, on a besoin d'un matelas, d'une forme de sécurité, parce que c'est pas toujours évident. Bon, mais merci.
Si je m'enlève du Pôle emploi, par exemple, et que le mois prochain, je ne travaille plus, je vais avoir 2 mois de carence avant de toucher quelque chose.
Je préfère rester
au Pôle emploi, même en travaillant.
Vincent, je vous offre une montre. On vous offre des montres, une montre Kelton, pour vous remercier de participer, d'écouter Sud Radio.
Toute
la semaine, on vous offre en fait des montres. C'est la montre officielle du Mondial de football, Kelton. Voilà, belle montre.
Je vous remercie bien. Vous offrez une montre en plus de donner la parole.
Sud Radio, comme ça. Radio. Passez une bonne journée, mon cher Vincent, dans l'Hérault. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Jean-Jacques Bourdin, André Bercoff et puis tous les programmes, évidemment. Ce soir aussi, Les Vraies Voix, Cécile de Minibus et Philippe David. Autour aussi, à partir de 18h30, évidemment, du Mondial du Qatar. Vous allez regarder ou vous allez boycotter Lydia Guirous, vous aimez le foot, vous?
Très honnêtement, c'est pas ma grande passion, le football. Je regarderai quand l'équipe de France va jouer, mais je vais pas faire la langue de bois.
Je vous informe, elle joue ce soir. On le dit depuis ce matin.
C'est ma grande passion et que je vais suivre tous les matchs.
Je ne sens pas la grande passionnée. Éric Revel, vous êtes passionné quand même.
Oui. J'ai même regardé hier.
Vous avez eu le temps de regarder les matchs hier.
Alors hier soir, c'était Galles-États-Unis. Avec un match but incroyable de Weah, qui est le fils du président de la République du Liberia et ancien grand joueur.
Ancien grand joueur, buteur du Paris Saint-Germain.
Un partout. J'étais content pour les Gallois.
Et donc vous regarderez ce soir.
Oui, je regarderai.
Pronostic?
Je dis 2-0 pour la France.
2-0 pour la France, c'est contre l'Australie, ma chère Lydia Guirous.
Très bien,
votre pronostic.
Je suis Éric Revel, je prends pas de risque.
D'accord, allez, très bien, dans un instant, Valérie Expert, passez une très belle journée.